Salut à tous, bienvenue sur Gameblog.fr pour le podcast hebdomadaire de la rédac. Je suis aujourd'hui avec Camille, avec Hello. Thomas Yo. Et avec Plume. T'as le droit de dire bonjour.
Ouais, bonjour.
Qui a eu cette grosse flemmarde, était un petit peu malade. Il a eu un rhume ce week-end.
Une distance de sécurité entre
et
nous.
Il a décidé qu'il allait donc me passer l'animation pour ce podcast numéro
445. Mon virus, si
non, mais ça tombe bien parce que tu vas parler notamment d'un jeu qui s'appelle Iconoclast.
Ouais.
Toi Thomas beaucoup de Céleste et toi Camille de Subnautica, trois jeux indés qui sont sortis cette semaine ou tout du moins qui ont eu leur test cette semaine sur Gameblog, enfin la semaine dernière, et qui nous ont touché en plein cœur, un peu comme l'avaient fait avant eux deux jeux qui pour le coup là sont des gros jeux d'éditeurs et absolument pas indépendants, Dragon Ball FighterZ et Super Monkey Island, j'allais dire.
Monster Hunter World.
Monster Hunter World. Putain, on est gâtés en ce début d'année. Et donc, on a envie de dédier ce podcast finalement parce qu'il y avait pas mal d'actu, mais on va dire pas de quoi faire des grands thèmes. Donc, à ces trois jeux qui nous ont tous les trois beaucoup plu. Voilà, on va revenir dessus dans un instant. On va également parler d'un autre jeu. Mon cher Camille, on va profiter de ta présence ce soir. On va juste parler rapidement de Kingdom Come au milieu d'autres restes de l'actu parce que
qu'on a envie. Ouais, en fait, ça sort bientôt déjà. Et puis il y a une grosse hype autour, donc on s'est dit c'est vrai, bon, hein, vous en parler.
Et même au sein de la rédac, il y a une hype
qui est grandissante.
Qui est grandissante. Voilà, exactement. Bienvenue à tous. Donc on commence avant tout ça par les wins et les fails de la semaine. Alors pour le premier win, je me tourne vers toi, Thomas.
Et oui.
Tu vas nous parler de deux cartons.
Tout à fait.
Rien à voir avec Nintendo Labo.
Deux cartons, mais qu'on vient tout juste d'évoquer, en fait, puisque ce sont les chiffres de vente, les premiers chiffres de vente de Monster Hunter World et Dragon Ball FighterZ qui sont tombés, qui sont tous les deux des succès, non pas d'estime, mais des succès commerciaux, puisque Monster Hunter World a fait le meilleur démarrage de toute la série, avec 5 millions d'exemplaires distribués. En tout cas, c'est Capcom qui nous l'annonce. Et ce, en 3 jours. Voilà, juste 3 jours, 5 millions d'ex distribués. Il s'est premier dans les charts en Grande-Bretagne, donc voilà. Capcom comptait énormément dessus pour redresser un petit peu la barre puisque l'année fiscale 2017-2018 n'était pas la plus florissante pour l'éditeur. Bah là, on a l'impression en tout cas que c'est bien parti pour eux. Donc voilà, succès.
Tant mieux, c'est mérité.
Succès critique puisqu'il a été très bien accueilli chez nous et succès commercial puisqu'a priori il trouve son public assez rapidement.
Alors là, c'est le lancement. Donc on verra par la suite, parce qu'en gros il y a quand même il y a quelque chose d'important pour Capcom, c'est d'arriver enfin à intégrer cette série de manière pérenne et sur le long terme dans nos pays occidentaux, ce qui n'est pas vraiment le cas aujourd'hui quand tu compares le phénomène à celui qui est celui du Japon en fait, hein. Au Japon,
où là elle est très très bien implantée, voilà, cette série depuis très longtemps
et elle va très bien démarrer également là-bas aussi, hein, d'ailleurs. Et alors l'autre jeu c'est Dragon
Ball
FighterZ, qui fait lui aussi je crois aussi le meilleur lancement de la série.
Tout à fait. Alors, qui fait le meilleur lancement d'un jeu de Dragon Ball en fait, puisque les séries il y en a eu plein. C'est 2 millions d'exemplaires qui se sont écoulés lors de la première semaine, donc le meilleur démarrage de la licence. Et à titre de comparaison, sur la même période de temps pour Dragon Ball Xenoverse 2, donc le dernier en date avant celui-ci, c'était 1,4 million.
Attends,
donc
1,4 million versus combien tu dis?
Versus 2 millions. Donc là, on a 600 000
Pourtant, il y avait pas mal de hype déjà, mais bon. Je pense que là, c'est un jeu qui en plus va faire lui typiquement, j'ai moins de doute qu'avec Monster Hunter, un bouche à oreille et une
oui, et on
un
le voit déjà
continu,
sur le net. On voit plein de gifs, plein de gens qui bossent leur combo ou qui trouvent des animations assez rigolotes, qui les postent. On voit que le jeu commence déjà à devenir viral.
Et sur PC, ça a bien marché aussi.
Et en plus, sur PC, c'est vrai qu'il a
sur
eu
Steam,
il a un vrai
très
succès
bien vendu pour son lancement. Il a plutôt bien assuré. Je veux pas casser l'ambiance, hein, mais regardez pas comme ça.
La grippe, on s'inquiète
pour toi. Mais voyez pas à ce point-là.
Quand tu parles, on arrête de respirer en fait.
Ah, d'accord, c'est pour ça.
Donc voilà, deux gros jeux de ce début d'année qui ont tous les deux rencontré leur public. Donc ça atteste d'une très bonne santé du jeu AAA quand ils sont de cette qualité-là.
Ouais, et on va dire que cette année commence décidément
très très fort.
Très très fort, et on en reparlera dans un instant. Je profite de ces wins pour en caser un, comme ça, parce que
comme ça,
y a
là, discret.
Discrètement, pour une initiative vraiment intéressante de la part de l'UNICEF qui s'est associée avec l'agence BETC et qui a eu cette idée assez géniale de créer l'opération Game Changers. Alors c'est chain, hein, comme une chaîne humaine, etc. Parce que l'idée, c'est...
Il faut forwarder des mails, non ?
Voilà, alors l'idée, c'est de faire une opération pour les enfants syriens, pour sauver des vies, hein, très concrètement, via l'UNICEF. Et plutôt que de vous demander de l'argent, eh bien l'UNICEF a eu cette bonne idée avec donc l'agence BETC de s'adresser directement à la communauté des gamers et des streamers, de tous ceux qui utilisent leur PC pour jouer et qui ont forcément une grosse carte graphique et une grosse puissance de calcul dans leur machine. Eh bien l'idée, c'est d'installer un petit logiciel dans votre PC qui va utiliser une partie de la puissance de calcul de votre bécane pour l'opération Changers, et qui va utiliser cette puissance de calcul pour miner de la crypto-monnaie sur Internet. Donc toute cette puissance de calcul va être réunie en une seule initiative de minage de crypto-monnaie. Alors la crypto-monnaie en question, c'est l'Ethereum. Et entre le 2 février, donc ça a été lancé la semaine dernière, et le 31 mars, eh bien, installez ce petit truc sur votre PC. Ça mine tranquillement de l'argent pendant que vous êtes en train de rien faire du tout. En quelques jours, ils ont déjà levé 1000 euros avec, je ne sais plus, une centaine de participants. Donc,
oui, donc l'idée, ça va très
vraiment,
vite, en fait.
Voilà, l'idée vraiment, c'est indolore, j'ai envie de dire. On ne vous demande pas, même pas d'argent. Vous avez juste à installer un petit soft pendant un mois ou deux. Et ça va créer de l'argent, lever des fonds pour les enfants en Syrie. Je trouve que c'est une idée formidable. Et donc, bah, allez-y, si vous voulez aller voir à quoi ça ressemble. Et voir comment vous pouvez aider. Bien sûr, on peut faire aussi des dons en argent bien réel, hein, ça, l'un n'empêche pas l'autre. Vous allez sur changers.io ou vous allez sur Gameblog et vous tapez UNICEF tout simplement dans le champ de recherche et vous allez trouver sans problème cette information.
Je ne sais pas, voilà, si vous vous rappelez d'une université américaine qui avait fait un peu la même chose avec la PS3 à une époque.
Folding at Home, ça s'appelait.
Eh ben voilà, quelle mémoire vivante du jeu vidéo, tu es.
Exactement. Folding at Home, c'était effectivement intégré directement même dans l'OS de la PS3.
Exactement. Ouais.
Et il suffisait d'ouvrir l'application et de dire voilà, je veux bien donner de ma puissance de calcul de telle heure à telle heure, etc. Et d'ailleurs, vous pouvez faire pareil avec votre PC, parce que notre PC,
même à la rédac, hein.
À la rédac,
on a des PC pour. Hein, aussi,
tout
hein.
À fait. On laisse un PC tourner la nuit et on se dit voilà, cette nuit c'est pour
celui de trace, généralement
c'est pour l'opération Changers, voilà. Et donc il va prendre toutes les ressources de la carte graphique ou une partie et créer miner de la crypto-monnaie. Voilà, c'est un peu cryptique, hein, justement la crypto-monnaie, tout le monde ne comprend pas exactement de quoi il s'agit,
comme la CSG, hein, c'est un truc CSG, on a un peu du mal à vraiment assimiler,
mais vous avez compris le principe, hein, l'idée c'est que cette monnaie se crée d'elle-même, quoi. Voilà,
et ouais, ça ne coûte rien, et ça te coûte, c'est ça qui est chouette.
Bon, quelques watts, quoi, c'est tout. C'est pas grand chose.
On passe au fail, et qui de mieux pour traiter un fail que Plume, j'ai envie de dire le roi du fail.
À cause de... mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça y est, les gens grippés sont tout de suite mis au
bout. Ah, parce que tu peux pas répliquer aujourd'hui,
et attends, et bientôt tu seras vieux, quoi. Donc
vieux,
tu seras
et
mis au
bord
de la société comme tous les autres, hein,
donc... Et puis je serai mort de toute façon.
C'est le début de la fin,
exactement.
Alors c'est quoi le fail cette semaine? Je crois
on va dire que c'est un triple fail, parce que pendant que j'étais au fond de mon lit avec mes 40 degrés de fièvre, et ben il y a eu des jeux qui ont été décalés, des jeux qui ont été reportés une fois de plus.
T'aurais pu miner de la crypto-monnaie pendant que t'étais...
J'aurais pu si j'avais eu l'information, si tu me l'avais donné, parce que j'ai pas du tout suivi.
Non, il a été improductif au possible.
Ah oui, c'est peu de le dire. Alors, on a eu une confirmation en premier lieu, c'est Anthem, puisque Kotaku la semaine dernière avait eu vent d'un éventuel report du jeu qui devait sortir cette année, donc fin 2018 à l'automne pour être exact, c'était en tout cas ce qui était écrit sur le site officiel.
Ah, pour ceux qui ne se rappelleraient pas, Anthem, c'est le fameux jeu Electronic Arts qui avait été dévoilé à l'E3 2017.
BioWare,
oui.
Insistons sur le fait que c'est d'abord BioWare.
C'est BioWare chez Electronic Arts.
Voilà.
Et qui avait mis une claque dans la gueule à peu près tout le monde. Voilà.
Exactement.
Et à tel point qu'on se dit, mais est-ce que ça peut vraiment être comme ça, le jeu?
Oui, c'est la question qu'on peut se poser.
Est-ce que ça peut vraiment être aussi beau que ça, ce
sur Xbox One X? Tout est possible.
Bon, en tout cas, il est repoussé, donc.
Voilà, il est officiellement repoussé, puisque Kotaku avait déjà fait part de l'éventualité d'un report à 2019, et aussi en insistant sur le fait que le jeu était un peu le jeu de la dernière chance pour BioWare, qui a été très mal mené par Electronic Arts et puis par les joueurs, hein, tout bêtement, à cause notamment de Mass Effect Andromeda, qui n'était pas vraiment à la hauteur. Il faut dire que, encore une fois, quand on regarde les conditions de développement de Mass Effect Andromeda, c'était peut-être pas non plus tout parfait, mais en tout cas la pression est vraiment sur Anthem, et du coup il est officiellement décalé à 2019. Mais il y aura, si j'ai bien compris l'autre news, il y aura un jeu Battlefield à la fin de l'année. ouais, on va dire pour faire
rassurez-vous,
pour compenser. Voilà.
Techniquement, alors, si j'ai bien compris, petit teasing, mais en gros, ouais, il est censé y avoir dans deux jeux Battlefield qui sont en préparation.
Ouais.
On ne sait pas encore lequel sortira cette année, en octobre. Donc, il y en a un prévu sur la Seconde Guerre mondiale, donc c'est la rumeur qui court, et un sur la guerre du Vietnam qui sera un Bad Company 3. Donc l'épisode Seconde Guerre mondiale serait l'épisode, on va dire, canonique qui ferait suite à Battlefield 1.
Uh-huh.
Et l'épisode Vietnam serait ferait partie de la série Bad Company, en fait.
Bad Company, c'était tellement bien.
Qui est un excellent jeu, ah, avec ouais, beaucoup de gens attendent. Donc on ne sait pas cette année si c'est Bad Company ou l'épisode canonique.
Mais ça va être la seule fois où, ouais, chez DICE, ils ont réussi à faire un truc avec des persos qui te faisaient marrer et avec un scénar qui était à peu près qui tenait à peu près la route. Parce que quand tu regardes Mirror's Edge ou les autres Battlefield en général, c'est plutôt moyen.
Ah oui, le scénario du premier Mirror's Edge est absolument fantastique de nullité, quoi.
Mais celui du 2 est pas génial.
Nullité
non plus,
au sens propre, j'ai envie de dire, il y a rien, quoi.
Ouais, c'est pas génial non plus pour le 2, malheureusement. Mais Battlefield Bad Company 1, c'est un jeu extraordinaire.
Mais
à bien
aussi
des égards.
Une grosse claque.
Technique,
dans
ouais,
le sens
quoi,
où la destruction du décor, c'était une première que ça a été fait dans ce sens-là, ouais, en fait.
Bon, ça c'était le premier pour les fails des reports.
Allons-y crescendo. Alors,
exactement. Allez. Le deuxième, c'est Yakuza 6.
Ah, tu mets pas à la fin crescendo, Romain serait là, il serait choqué.
Bah oui, mais
il est pas là,
donc profitons-en.
Voilà, exactement. Yakuza 6 qui devait sortir le 20 mars prochain sur PS4, en tout cas en Occident, puisqu'il est déjà sorti au Japon depuis un petit moment. D'ailleurs, le test de Rudy est toujours disponible sur Gameloc si vous voulez le lire. Il devait arriver le 20 mars prochain, et bah non, patatras, il sortira plutôt le 17 avril. Donc voilà. Mais en attendant, il y aura quand même une petite compensation, hein, un petit peu comme avec. Avec Anthem qui aura droit à un espèce de jeu de remplacement pour patienter, et bah lui Yakuza 6 il y aura une démo qui arrivera elle le 27 février
Romain me disait mais c'est incompréhensible.
C'est de la localisation maintenant, donc c'est un peu bizarre que.
Donc c'est peut-être une histoire de calendrier qui les pousse à faire ça. Ils se sont dit, il y a Red Dead Redemption qui va arriver au printemps. Évitons le printemps et repoussons Yakuza 6.
Ouais,
tu vois
peut-être ça, ouais.
Et donc là, qu'est-ce qui se passe?
Il est repoussé. Il est repoussé aussi Red Dead Redemption 2.
Et voilà.
Absolument.
Et donc ils l'ont dans le fondement. Je pense qu'ils vont avancer la sortie finalement.
Bah, peut-être.
Il n'y a pas que qu'ils l'ont dans le fondement.
Dernière précision concernant la démo de Yakuza 6. La progression que vous opérez dans cette démo sera gardée si vous chopez le jeu complet et l'édition collector, notamment avec ces deux verres à whisky que on sait vous avez envie beaucoup d'acheter. Et donc
Red Dead Redemption,
Redemption 2. Alors à chaque fois que je suis parti, il se passe un truc avec Nintendo ou avec Rockstar et Red Dead, bah voilà, ça a pas loupé.
Il y a un autre report, c'est le jeu Star Wars.
Le jeu Star Wars du
studio.
Du studio Titanfall.
Ouais,
Respawn.
Qui est repoussé aussi, ouais.
Ah, ça, je l'ai pas vu, je suis désolé, j'étais un peu mort là.
Effectivement, on a oublié.
Fallait que tu reviennes avant.
En plus, je l'avais noté, j'ai dû laisser.
C'est vrai, bah tu l'as pas noté pour moi alors.
Non, j'ai oublié.
Voilà.
Enfin, je l'ai noté dans les. Bref. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Effectivement, t'as le Star Wars qui est repoussé. Donc, Red Dead Redemption 2, parce que c'est
repoussé à quand? Repoussé à quand que je sache, parce que je suis pas au courant.
Et je pense au calendrier grec, un truc comme ça.
D'accord, ok. Donc Red Dead Redemption 2 repoussé, il devait sortir au printemps, c'était la dernière date qu'on avait eue, Red Dead Redemption 2.
Donc
et ben,
tout le monde s'est démerdé pour sortir son jeu à la
voilà.
fin de l'année.
Tout le monde s'est dit attendez, stop, enfin, on va arrêter.
J'imagine trop les brainstorming, tu sais.
On va arrêter les conneries, là on va pas sortir en mai-juin, ça pue du cul, il faut absolument qu'on trouve une nouvelle date. Et puis là, bah, Rockstar est arrivé la semaine dernière tranquillement en disant que non. En fait, Red Dead Redemption 2 ce sera le 26 octobre. Et le 26 octobre,
et voilà,
c'est la date qui fait mal à peu près tout le monde.
Bah oui.
Là, je pense que
c'est l'épouvantail absolu, quoi. Red Dead Redemption 2.
En dehors des jeux de sport, jeux de basket et de football, tous les autres jeux de type action, aventure, qui vont sortir à la fin de l'année,
etc.,
doivent être en train de se chier dessus. Bah c'est-à-dire que chez Electronic Arts, chez Ubisoft, chez Activision, depuis l'annonce, là, ils doivent se dire bon, qu'est-ce qu'on va faire pour Call of Duty, qu'est-ce qu'on va faire pour Assassin's Creed, parce que là, je ne vois pas très bien comment on peut s'en sortir.
Ça doit être une horreur. Et à contrario, tous ceux qui devaient pour autant sortir là ce printemps, ouais, je pense à des jeux comme
Far Cry,
Détroit de Quantic Dream, ouais, ce genre de jeu, bah du coup, ils ont quand même un.
Là, ils ont un boulevard.
Ils doivent avoir l'impression de.
D'avoir
d'être
tiré,
tranquille, mais
tiré le gros
un truc
lot.
Des fous, quoi.
C'est le jackpot pour eux.
C'est le jackpot. Ils ont gagné à la tombola. Quoi.
Mais bon, pour la fin d'année, ça arrange pas les autres.
En plus, tout
autres,
ce qu'ils ont dévoilé avec ça, c'est.
Parce que là, il y a 3-4
screenshots.
Il
n'y
a pas de compensation, là, par contre.
Non,
il n'y a pas de démo, il n'y a pas d'annonce.
Non,
d'autre
juste 3-4 screenshots. Ouais. Hein. Donc, allez vous faire mettre. Hein.
Voilà.
Non, mais cela dit, on met ça dans les fails. Mais j'ai envie de dire, c'est presque toujours une bonne nouvelle de savoir qu'on peut repousser un jeu pour des questions de qualité.
Oui, puis c'est la normalité aussi. Parce avec Rockstar, ils reportent leur jeu au moins 4 fois.
Je pense qu'il y a plein de jeux qui sortent et qui auraient pu bénéficier, mais voilà, d'un report.
On n'est pas à l'abri aussi d'avoir une fenêtre de sortie qui est sympathique pour les autres. Là, pour une fois, ils s'octroient le droit d'arriver en fin d'année et de dire merde, voilà, on fait ce qu'on veut.
J'étais à 5, c'était en septembre.
C'était septembre.
Sorti aussi, mais c'était début septembre.
Et puis t'imagines, c'est la panique quand même, le 26, là. 26 octobre, quoi. Les mecs, tout ce qui leur reste, c'est d'essayer de sortir fin de l'été, tu vois, rentrer, quoi. Et à partir du moment où on va arriver septembre-octobre, là, tout le monde aura Red Dead 2 dans la tête.
Mais du coup, rentrer, ouais, tu surfes plus sur les fêtes de fin d'année, tout ça.
Encore une fois, on n'est pas à l'abri d'un nouveau report, hein. Les mecs,
si tu tombes malade...
GTA 5, qui continue à cartonner en online, qui continue à se vendre par palette, je crois qu'il va dépasser... Il va dépasser les 100 millions d'exemplaires vendus dans le monde sur tous les supports. S'ils continuent à bien marcher, les mecs peuvent se dire bon, je sais pas, là, on a encore des problèmes, là, ça scintille un petit peu. Alors, on le reporte à 2019. Bon, ouais, si tu veux, ça, c'est pas de souci.
Vas-y, Gérard, c'est bon.
Allez, voilà, mais prends. Tout est possible, hein, vraiment, à ce niveau-là. Mais bon, pour moi, c'est un peu triste, j'aurais préféré jouer plus tôt.
Voilà pour Red Dead, l'épouvantail. On passe à la suite, les amis, avec le premier thème. Et le thème de ce podcast va se concentrer donc sur les trois grosse entre guillemets sortie indé de la semaine dernière: Céleste, Iconoclast et Subnautica. Et je vous propose qu'on commence avec le mieux noté des trois.
Je propose qu'on commence en musique avec un air de Vivaldi.
On accueille Serge Dama.
Alors on pourrait y aller avec un air de Céleste, hein, parce que les musiques sont à tomber
vraiment dingo entre Disaster Piece et Jack Kaufman.
Alors comment on fait, les gars? Vous allez chacun nous présenter votre jeu, et Thomas, tu vas nous dire Céleste c'est quoi, c'est qui, et pourquoi c'est bien.
C'est incroyable et il faut y jouer. Voilà, merci. Non, Céleste, ben c'est, vous pouvez le voir à l'écran, le nouveau jeu de Matt Makes Games, qui est donc le développeur de Towerfall Ascension, qui avait eu un énorme succès lors de sa sortie il y a quelques années.
Qui était un jeu multi.
Exactement, qui était un jeu multi-local. Ouais. Et en fait, ben, comme Towerfall, Céleste, à la base, c'est un proto en fait dans une game jam, qui est devenu...
Il était fait en quelques heures. Hein,
voilà, qui est devenu évidemment. En fait un jeu commercial, qui a évidemment été transformé, puisque vous pouvez
radicalement depuis la game jam
vous pouvez jouer en fait au prototype original. Il est caché quelque part dans le jeu si vous arrivez à le trouver. Ça n'a évidemment plus rien à voir, mais le principe est toujours là, à savoir que vous incarnez une jeune femme, Madeline, qui possède un dash et qui va devoir en fait trouver son chemin pour escalader une immense montagne au travers de tout un tas de niveaux. Je vais essayer de ne pas vous dire combien il y a de niveaux, parce que ça fait un peu partie de la surprise aussi. Et bah, c'est juste incroyable, c'est magnifique, c'est d'une précision, c'est millimétré. Au niveau du gameplay, de l'exigence, on est plus sur quelque chose qui ressemble à du Edmund Macmillan, donc Super Meat Boy, The End is Nigh.
Ça, c'est un Balin Retry, alors c'est...
Exactement, c'est-à-dire que vous allez, même dès le début, hein, le jeu est assez exigeant d'entrée de jeu dès le premier niveau, mais vous allez souvent mourir, en fait, le temps de comprendre déjà comment ça fonctionne.
Alors, il y a le jeu, d'ailleurs, a une espèce de petit plaisir malsain, c'est de te montrer à la fin d'un niveau combien de fois tu es mort, en plus du nombre de fraises que tu as récupéré.
Dès que tu termines un niveau, tu as le nombre total de morts. Et là, pour le dernier niveau en date que j'ai fait, je suis mort 888 fois avant d'en voir le bout. Ça vous donne une petite idée un petit peu de ce qui vous attend.
Alors évidemment, c'est comme dans Trials, Super Meat Boy, etc. Quand tu meurs, pouf, tu repop immédiatement au début.
Oui, et comme c'est un jeu exigeant et qui s'inspire vraiment de Macmillan, en fait, le timing de tous les éléments, quand vous avez des plateformes qui bougent, des trucs comme ça, tout reboot à la même frame. Donc c'est-à-dire que si tu as une route optimale, tu peux essayer de la reproduire à chaque fois sur chaque tableau. C'est pas quelque chose de random, de générer aléatoirement.
Il y a d'ailleurs des options qu'on appelle ça quand on fait les jeux très vite,
De speedrun.
Speedrun,
il y a un mode speedrun d'entrée de jeu, effectivement. Alors il va falloir doser avant, parce qu'il faut maîtriser un petit peu le gameplay. Je vous l'avais dit, il y a un dash, il y a aussi la possibilité en fait de s'accrocher aux plateformes.
Sans Strider, j'ai l'impression tu peux t'accrocher tu peux escalader comme tu veux.
Alors pas comme tu veux,
parce qu'il y a un moment où ton grip est terminé.
T'as une jauge invisible, mais qui fait que si tu restes agrippé à un mur sans bouger, tu vas tenir un petit peu plus longtemps. Par contre, si tu escalades, là tu vas vider ta jauge et rapidement ton personnage clignote, ce qui veut dire que tu vas complètement lâcher prise.
Et le jeu se base sur des principes comme ça très très simples. Par exemple, le dash, tu peux le faire qu'une seule fois. Si tu te raccroches à une paroi, tu peux pas ressauter et refaire un dash. Pour refaire un dash, il faut que tu aies reposé les pieds au sol.
Exactement.
Donc après, il y a une espèce de chaque tableau est une sorte de casse-tête dans lesquels tu fais des trucs de plus en plus complexes. Et effectivement, moi j'en suis au tout début, j'ai fini juste le premier chapitre, je suis au début du deuxième. Et déjà dans le premier chapitre, en fait, tu te retrouves dans des niveaux où tu dis mais putain, mais comment je dois faire là, c'est pas possible. Puis d'un seul coup, tu as une espèce de révélation et tu dis ah putain, il faut que je me laisse tomber, que je dash à droite, que je m'accroche, je me laisse tomber, etc. Enfin, c'est des petits casse-têtes comme ça.
Bah, en fait, le jeu a des mécaniques assez simples pour un platformer comme ça, sauf qu'il arrive à travers son level design à constamment se renouveler, en fait, à proposer des défis. Là voilà, on se demande comment on peut passer, en fait, ce que vous avez à l'écran,
c'est assez simple,
c'est différent. Oui, voilà, au début on se pose souvent pas mal de questions, et c'est vraiment le level design et c'est tous les éléments qui vont s'ajouter au fur et à mesure qui vont enrichir le jeu. C'est-à-dire que chaque monde, chaque chapitre amène au moins une nouvelle mécanique dans son level design. Alors ça va être des trucs des fois très simples comme du vent, des plateformes qui bougent, vous allez avoir des nuages qui disparaissent au fur et à mesure, il y a des ennemis qui vont vous poursuivre, il y a des items qui vont en vol vous permettre de redasher justement le petit losange qu'on voit là à l'écran. Si on le touche, on récupère un dash, donc on peut sauter un petit peu plus loin. Il y a plein de choses à faire comme ça. Et en plus, le jeu n'est pas forcément linéaire, il n'y a pas un seul déroulement pour arriver à la fin du niveau. Il y a plein de petites salles plus ou moins cachées sur les côtés qui recèlent tout un tas de secrets. Alors il y a ces fraises à choper sur pas mal de tableaux, qui, le jeu vous l'indique, hein, les fraises c'est pour vous, c'est pour impressionner vos potes, on vous le dit clairement comme ça. Ça n'apporte rien de plus que de la satisfaction personnelle et le fait d'avoir vraiment exploité un petit peu ce que le jeu... Comme les pansements dans Super Meat Boy, par exemple. Ouais. Et comme Super Meat Boy, justement, chaque niveau en fait a au moins une phase B qu'on débloque en récupérant...
Et parce qu'il y a une phase C, éventuellement.
Et en plus des faces C, qui sont a priori diaboliques, parce que dans chaque niveau, il y a une cassette, une vieille cassette audio qui est cachée. Donc pareil, il faut réussir à tomber dessus. Et si vous la récupérez, que vous finissez le niveau, et ben vous avez accès à une version, on va dire, méchante, comme les Dark World de Super Meat Boy, de The End is Night, etc. Ça va être souvent les mêmes tableaux, mais avec beaucoup moins d'espace pour se réceptionner, ou ce genre de truc, il va y avoir beaucoup plus de pièges. Et du coup, bah, c'est savoureux, c'est un jeu qui vous oblige à vous dépasser.
Et alors, ce qui est bien, je trouve aussi, c'est que c'est pas un enchaînement de niveaux. Enfin, techniquement, c'en est un, mais c'est une espèce d'aventure. C'est comme un Super Meat Boy, mais qui serait une aventure
continue.
Continue. Ce qui est
c'est scénarisé, non?
C'est scénarisé, c'est complètement scénarisé. Et justement, c'est là que c'est la question que je voulais te poser, sans que tu nous en dises trop. Mais je veux dire, quand j'ai lu ton test, tu m'as hypé totalement. J'ai acheté le jeu immédiatement derrière. C'est parce qu'en fait, il y a une véritable histoire, non seulement, enfin, je veux dire, un vrai scénario qui se déroule.
On t'expose quelque chose dans le jeu.
Où on t'expose quelque chose effectivement dès le départ avec ce personnage. Comment s'appelle déjà?
Madeline.
Et puis il y a une évolution au cours de l'aventure qui va dans genre, on va dire, une réflexion intra-personnelle autour de ce personnage.
C'est sublime ce qui se passe au fur et à mesure qu'on avance. Évidemment, on rencontre des personnages. Il y a des types qui sont là, qui sont un peu paumés. Il y a la grand-mère qui t'accueille au début, qui se moque un petit peu de toi. Après, tu rencontres ce mec qui fait des selfies pour le moindre prétexte. Mais on se rend compte au fur et à mesure, au travers des dialogues et au travers des niveaux que tu parcours, que l'escalade de cette montagne, c'est une énorme métaphore. En fait, le combat que mène Madeline, il est intérieur, sauf qu'il va être matérialisé, il va être sublimé par le jeu. Et le final est presque bouleversant. Il y a vraiment quelque chose qui se passe en fait, au fur et à mesure de la progression.
C'est juste un enchaînement de niveaux.
Ça commence comme un jeu de plateforme, on rencontre des personnages, voilà. Mais vraiment, au fur et à mesure, ça, cette mécanique, elle est géniale. Voilà, il y a des environnements à travers lesquels on peut dasher et qui te donnent un boost énorme. Et oui, c'est un combat vraiment intérieur, mais on le découvre que petit à petit, c'est vraiment bien amené.
Subtil.
C'est très juste au niveau de la narration, au niveau des dialogues, c'est vraiment bien écrit.
Alors on peut penser ce qu'on veut aussi du pixel art. Souvent t'as des gens un peu
je sais pas, réfractaires,
ou des esprits chagrins, je sais pas trop quoi dire. C'est vrai que bon, qui te disent ouais c'est bon, un jeu indé, hop, on te met du pixel art et puis tout le monde est content et tout. C'est comme les chasseurs, il y a du bon pixel art et du mauvais pixel art. En l'occurrence, celui-ci il est vachement comment dire, rétrograde quoi, et c'est un pixel art très pixelisé. Mais putain, il est sublime.
C'est du gros pixel, mais on a des paysages magnifiques.
Et il est sublimé, je trouve, aussi par l'ambiance sonore.
Oui.
C'est-à-dire que ça forme un tout assez...
C'est un tout hyper cohérent. Et ça s'inspire, en fait, dans tous les domaines. Ça s'inspire de grands noms du jeu indé. On l'a dit, Macmillan pour le gameplay. Il y a un petit peu de Phil Fish pour ce côté caché avec des vrais énigmes. Ça fait penser à Fez par moment. Et au niveau de la musique, bah, on est, comme je disais, sur du Disaster Piece, du Jake Kaufman. On a des thèmes rétro, mais hyper hyper entraînant. Et en plus, dans chaque niveau, quand on commence justement les B-sides et les versions cachées, on a un remix du thème principal qui est presque à lui seul une justification en fait pour faire cette version beaucoup plus méchante des niveaux, parce que c'est un régal pour les oreilles. Moi je trouve que c'est un régal pour les yeux. On a des panoramas sur la fin qui sont sublimes, on a des couchers de soleil en fond, on a des aurores boréales, enfin il se passe plein de choses. Et en plus, au début, le jeu, on va dire, est terre à terre, entre guillemets, dans ce qu'il te propose de voir, mais plus tu vas avancer, plus tu vas en fait explorer les tréfonds de l'âme de Madeline.
Je vais te poser une question, est-ce qu'il faut avoir peur de la difficulté du jeu quand on est un joueur pas forcément tenté par les challenges trop relevés? Un mec comme moi, quoi, qui a, en l'occurrence, en parlant de moi, j'ai commencé le jeu et j'ai été subjugué par différents trucs, et puis j'ai été assez content de m'en sortir au niveau des petits puzzles, quoi, que pouvaient représenter les premiers niveaux. Et puis j'ai eu la mauvaise idée de regarder sur Twitter à un moment donné un mec qui arrivait à boucler un niveau, et j'ai dit ok, ça, j'arriverai jamais à le faire. C'est pas possible. J'ai vu. C'était un truc de malade.
Si,
hein.
Puisque je
n'arrêtais pas de se laisser tomber sur un truc qui te faisait rebondir, qu'ensuite il fallait t'accrocher, le truc partait, il fallait timer au bon moment ton saut pour pouvoir profiter de l'élan. Puis il fallait que tu refasses un dash, que tu passes dans le petit truc, que tu refasses un autre dash. Enfin, c'est juste un tableau, un putain de tableau, hein, sans scrolling, sans rien, sur un seul écran. Le mec. J'ai vu ce truc là, je me suis dit putain, mais j'y arriverai jamais.
Sur la fin, je te dis pas que tu vas les passer comme ça en quelques minutes, hein. Il y a des moments où il faut vraiment travailler les séquences de jeu, mais le jeu te rappelle dès le début en fait que le compteur de mort, il est là justement pour que t'arrêtes de te prendre la tête sur ce genre de truc. Tu vas mourir, c'est un jeu où on crève, c'est un jeu où il faut systématiquement recommencer, et c'est pas grave, c'est vraiment pensé comme ça. Après, si vraiment, vraiment vous êtes coincé.
Le truc que j'ai vu, il fallait un skill monumental.
Ouais, mais ça se fait. Enfin,
oui, certainement, à force de répétition,
on y passe un petit peu de temps. C'est-à-dire que c'est un jeu qui t'apprend sur chaque run, l'espèce de séquence que tu décrivais. Ouais, au début, tu vas vraiment pas aller loin, mais au fur et à mesure, tu vas avoir le timing qui va te permettre d'avancer un petit peu. Tu vas crever un tout petit peu plus loin, mais tu vas te dire
comme un casse-tête.
Ok, mais là, il faut que je profite du momentum justement pour aller de l'autre côté et rebondir. Et tu vas apprendre à chacun de tes runs. Tu vas réussir à aller un tout petit peu plus loin au fur et à mesure, et tu vas finir par boucler le niveau en fait à force d'effort. Et c'est un petit peu ce que te raconte le jeu, puisque c'est un combat contre toi aussi, contre
oui c'est ça
contre
qui est
ton
beau,
skill.
C'est que t'es intégré à la réflexion.
Exactement.
Autour de Madeline.
Ça complète en fait la réflexion du jeu, et c'est pour ça que le mode assisté qui est proposé, qui est disponible dès le début dans les options, qui permet de ralentir le temps, de te filer un dash supplémentaire, voire d'être carrément invincible. Je veux dire, t'as vraiment des options complètement craquées. Et ben il te fait passer à côté du propos en fait du jeu, donc il te permet d'avancer, mais il te fait,
c'est bien dommage,
il te fait louper quelque chose.
Mais tu peux l'utiliser juste à un petit moment.
Tu peux l'utiliser sur une séquence si t'as envie, le désactiver après et continuer ton parcours.
D'accord.
Bon, sachant que généralement ça ne fait qu'aller crescendo en termes de difficulté.
Du coup, je suppose que c'est difficile à répondre, mais combien la durée de vie, elle est, toi par exemple, t'as mis combien de temps pour
alors pour voir le générique de fin, j'ai mis 8 heures.
Ouais.
Pour voir la première vraie fin, j'en ai mis 12. Et là, j'essaye d'aller au bout du
12
jeu.
12 de plus.
Non. C'est 8 pour voir le générique, 12 pour voir la vraie fin, entre guillemets.
Tu veux dire, il faut faire les B-sides, etc.
Exactement. Là, je viens de boucler tous les B-sides, mais il me manque encore des items, parce qu'en plus, il y a des trucs plus en avance et plus on se rend compte qu'il y a plein de choses cachées partout qu'on n'avait pas vu.
Il y a un véritable intérêt à recommencer
au premier
les B-sides et tout ou pas?
Ah bah c'est beaucoup plus dur.
Non, mais un intérêt au-delà de fois que t'as terminé l'histoire, que t'es content.
Il y a un item à la fin de chaque B-side dont tu vas avoir besoin pour... après le générique de fin, ce genre de choses. Enfin, le jeu ne s'arrête pas une fois que t'as vu les crédits défiler.
Au-delà du simple fait de
se remettre. Et donc là, j'en suis à 17h, je crois, un truc comme ça. Et je vois qu'il y a encore pas mal de choses à faire avant de réussir à récupérer tout ce que
Alors,
je veux.
Le jeu coûte
20
balles. Donc je
table facile sur une vingtaine d'heures. Facile.
J'ai une toute petite question. Tu vas jouer sur Switch, c'est ça, hein?
Tout à fait.
D'accord. Est-ce que le stick Switch est bien adapté en termes de réponse, on va dire?
Très clairement.
C'est
non.
Vrai?
Non.
Ah voilà,
non.
C'est bien, parce que c'est un des problèmes que j'ai avec cette console.
Je vous signale que la Switch est également une console de salon.
Et oui.
Pour ma part, j'y ai joué avec.
Bah, c'est bien que t'aies une manette pro et que tu sois un bourgeois, mais c'est
non,
pas
mais
tout
le monde. Si t'as une Switch, tu dois avoir
une
manette.
J'ai une
pro.
Manette bidou.
Sinon, il se passe quoi? Tu viens chez les gens. Et...
Ah bah, je suis désolé, tu viens ici, je te mets deux baffes.
Non, voilà. Mais parce que moi j'en ai une, mais comme je ne joue jamais à la Switch en mode docké, j'ai beaucoup joué effectivement en mode portable avec les Joy-Con.
Mais où?
Le bas blesse.
Mais où est-ce que t'as joué?
Dans mon canapé.
bah, chez moi, dans mon salon.
Et bah, tu poses, tu la poses en mode table sur le sur la table
bon,
de, du
salon. On s'en fout. Mais Julo, c'est pas ça la réponse par rapport aux gens qui veulent, qui ne vont jouer que avec leur stick,
non, mais,
parce que, que avec leur Joy-Con.
Non mais on est dans l'erreur, Plume. On ne sait pas.
Mais le truc, là où je prends la défense entre guillemets de la console et du jeu à la fois, c'est que je me dis cette console, c'est une console hybride. On est d'accord. Elle peut être jouée en mode portable. Elle peut être jouée en mode salon. Quand elle est jouée en mode salon, il faut la comparer aux autres expériences de salon. Quand elle est en portable, aux autres expériences de portable. Aucune des putains de consoles portables qu'on a connues de notre existence n'offrait de bonnes conditions de prise en main par rapport à une console de salon.
La Vita était pas dégueulasse.
Aucune. Oui, la Vita ça va.
Bah non.
La 3DS.
Non, jouer
la croix de la 3DS, c'est bien.
Non. La Vita a deux sticks. Joue à, je sais pas moi, Hotline Miami sur Vita par rapport à une manette. C'est hyper jouable sur Vita.
Je l'ai fait sur Vita.
Attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. C'est hyper jouable sur Vita. C'est moins confortable qu'un DualShock qui tient dans la main. T'as moins de crampes au bras, t'as. Voilà,
non, mais on
tout.
Parle. Là, je te...
Et là, c'est pareil avec
ce sur quoi j'insiste, c'est ce foutu stick des Joy-Con qui a une zone morte.
Oui,
qui
ah
est
oui,
vraiment,
oui.
Mais ultra large et qui fait que le dosage sur certains jeux est infernal quand
alors
tu vas dans une
alors
direction.
Alors que le stick de la Vita est une pure merveille.
Tout à fait.
Bah écoute,
ah bah
ça
si,
va.
Si. Non, j'ai jamais eu de problème
ça
sur
va.
Vita.
Ils sont très bons pour
alors que
la
là,
Vita.
En l'occurrence, puisqu'on parlait de Céleste, on dash dans les 8 directions.
Ils ont une zone morte inférieure.
Alors, je ne parle pas pour le hardware.
Bon, c'est sûr que c'est pas, c'est sûr que
je
c'est pas
je ne parle pas sur le hardware, je parle pour ce jeu-là, la manière dont il a été programmé sur cette console. Il y a un vrai problème, effectivement, avec la précision de la direction du dash entre aller de l'avant en diagonale vers le haut et le haut. Des fois, on se plante sur le huitième en fait, de direction qui manque et je suis mort un nombre incalculable de fois à cause de ça parce que tu veux dasher tout droit. Finalement, tu dashes en diagonale.
Quand c'est pas un jeu Nintendo, tu le sens vraiment passer. Hein. Franchement, autant Mario Odyssey ou Zelda, ça peut aller. Mais
non, puis là sur un truc aussi exigeant,
ouais,
vraiment ça
mais
pardonne
même
pas.
Sur un jeu pas exigeant, comment il s'appelle, Blossom Tales, les moments où tu te retrouves à être sur des plateformes minuscules et à
oui.
devoir marcher et
oui,
que
quand tout s'écroule et que
t'es au stick,
tu dois déplacer rapidement,
bah,
c'est vrai
tu te dévisses en... t'as l'impression de rejouer avec une manette Master System quoi. T'as l'impression que tu vas tout droit puis en fait ça part en diagonale tout seul,
et
bon,
c'est pas la croix qui va t'aider parce que la croix est absolument ignoble,
c'est
un
croix. D'ailleurs c'est pas une croix,
voilà.
Donc, c'est
le petit bémol,
mais
c'est qu'effectivement à la manette, enfin au Joy-Con sur la version Switch, c'est un peu limite au niveau du stick.
On blague à chaque fois à la rédac parce que dès qu'il y a une annonce de jeu qu'on trouve cool, on se pose la question et tout le monde la pose dans les commentaires de la news.
Ouais.
Ça existe sur Switch ? Parce que je le ferais bien sur Switch. Ouais. Ça existe sur Switch ? Parce que je le ferais bien sur Switch. Et là, en l'occurrence, bah, il existe sur Switch.
Et oui, tu peux racheter dans les transports.
Oh,
et
alors, mais il faut acheter le manette.
Malgré tout, du coup, tu conseillerais aux gens de plutôt le faire sur PS4 ou sur PC ?
Ah bah, je conseille aux gens de le faire, en fait.
Il est pas sur Vita aussi ?
Non,
c'est pas celui-là qui est sur Vita.
Non, tu penses
à Iconoclast. Il y aurait un temps, il serait sorti sur Vita.
Ouais. Et oui, mais malheureusement, ça n'est plus forcément le cas. Mais non, je conseille aux gens de le faire. Quoi qu'il arrive, peu importe le support, PC, PS4, Switch.
Mais attention, sachez-le, vous le savez, si vous avez une Switch, la zone morte du stick fait que sur les jeux précis comme celui-ci.
Faites votre bourgeois, achetez-vous une manette pro, allez jouer chez Julo, vous venez dans son salon, vous
les posez. Attends, les gars,
les manettes
Ori,
Super NES,
Ori, il faut une manette pro à 20 balles, je crois.
Mais les manettes Super NES à 8 bits doux, elles sont très bien.
8 bits doux, super.
Elles sont super.
Donc voilà, jouez à la Switch comme il se doit. c'est-à-dire partiellement sur votre télé.
Voilà, avec plein d'argent, balancez-le comme
bah
ça.
Non,
plein
sur
de
votre télé, je crois. Bah, je peux dire, Céleste, j'ai commencé à y jouer sur ma télé avec le bon son de mes enceintes et tout. Mes enfants,
vous la sentez la
bourgeoisie, oh, c'est marrant les graphismes, etc.
Ah, c'est marrant, c'est dans notre salle de cinéma privée.
Voilà. Non, pas du tout. C'est une télé qui date d'il y a 10 ans.
Regarde, papa, il y a le monsieur qui va vendre du popcorn.
Arrêtez, vous me saoulez là, les gars, sans déconner. Faut que ça cesse là.
Papa, pourquoi les tiens vibrent pas sur ce jeu-là? Je comprends pas.
Et quand je suis passé sur le petit écran de la portable, j'ai trouvé ça très agréable de pouvoir l'emmener au bureau, etc. L'avantage du côté portable. Mais par contre, c'était moins bien au niveau du son, c'était moins bien au niveau de l'écran, c'était moins bien au niveau de la jouabilité. Bref, c'était moins bien. Mais c'est normal. Tu passes en mode portable. C'est moins bien.
Ça se discute. Comme
et en même temps, t'as la portabilité. Voilà, si t'as envie. C'est comme ça que je vois les choses, personnellement. Mais bon.
D'accord. Mais voilà, s'il fallait résumer, jouez-y. Si vous aimez le jeu vidéo et si vous aimez la plateforme, franchement, allez-y, il y a tout. C'est un gameplay fabuleux.
Mais tu sais ce qui est vraiment
c'est
très triste
une
là-dedans.
Une bande-son incroyable.
C'est qu'il y a plein de gens qui vont pas y jouer quand même.
Et oui, mais c'est.
Il y a
c'est,
des gens
je
même
préfère
qui nous
le
écoutent
marteler.
Là et qui vont nous entendre parler de ces trois jeux et qui vont se dire ah c'est cool, mais j'en ai rien à foutre, je vais pas
tu
y jouer.
La vérité, c'est que du fond de mon pieu, je voyais des vidéos que Thomas balançait sur Twitter.
Ouais.
Je faisais ah ouais. Ah non. Non, 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 c'est pas pour moi ça.
Oui, alors ce que j'ai balancé,
c'est pour toi.
Non, non, ce que j'ai balancé, c'est les niveaux B-sides. Hein. Moi, j'ai balancé des moments un peu hardcore. Hein.
Ah, mais moi, ça, je ne ressemble pas à ça, moi.
Oui, mais t'es pas obligé.
Ah, bah, mais
tu peux finir le jeu. Tu vois, comme Poufy, tranquille, tu fais les niveaux voilà, au fur et à mesure et tout va bien.
Poufy, il est nul. Laisse tomber.
Il est nul, mais il en est plus loin que toi.
C'est le mec qui profite de.
Du fait qu'il puisse pas répliquer. Voilà. Enfin bon, voilà, c'est pour moi c'est le gros jeu de ce début d'année, vraiment, au-dessus de tous les autres.
Et il carrément.
Est... Ah ouais, non, mais vraiment. Et il est tellement profond qu'on va en parler pendant des années et des années encore parce que il est tellement complet sur tous les plans que bah voilà, c'est il faut y jouer. Vous avez pas le choix.
Donc c'est Super Meat Boy de ces dernières, enfin de ouais.
Ouais,
de
mais c'est même encore mieux. Et pourtant, j'adore Super Meat Boy, mais ça va encore plus loin en fait. Ah. Ça propose encore plus de choses. C'est ça a digéré Super Meat Boy et c'est le level au-dessus.
Voilà, vous avez la quote. C'est mieux que Super Meat
ça
Boy.
Ça a digéré Super Meat Boy.
Voilà.
Ça sera imprimé au dos de la boîte quand il sortira.
Ça éclate ce jeu de merde de Super Meat Boy, t'as dit.
Non.
Ça. Ça éclate ce jeu de merde de Super Meat Boy.
Prends ça dans tes seufs, Edmund McKillme. Voilà. C'est ça que j'ai entendu.
Va, change de métier.
Edmund, je te fais des bisous sur ta barbe si tu nous écoutes.
Change de métier, tu dégages. Ok.
Jouez-y, bordel.
Voilà. Jouez-y, bordel. Bon, c'est pas mal aussi. On passe à Iconoclast.
Ouais,
toi,
si tu veux, avant que je décède.
Alors, Iconoclast, c'est un jeu indé en
pixel art.
En pixel art, une fois de plus, absolument. Non, ce que j'avais noté, c'était surtout les points communs qu'il avait avec un autre jeu qui est sorti fin 2016, que j'adore, qui s'appelle All Boy, qui est sorti sur PC fin 2016, qui devrait arriver dans pas très,
très
longtemps
joli, All Boy.
Sur console, notamment sur Switch.
Février.
Février déjà.
Oui,
mois-ci.
Et il va sortir en boîte.
Ah oui, c'est vrai.
De toute façon, la Switch a plus ou moins remplacé la PS Vita dans la plateforme de prédilection des indés au-delà du PC.
Exactement. Donc j'ai noté pas mal de similitudes. Donc le fait que ce soit un jeu qui vienne des pays nordiques, le développeur Joachim Sandberg dit Konjac est suédois, alors que les développeurs de All Boy sont norvégiens. Et puis bah il y a même l'allure du jeu. Qui ressemblait un petit peu quand même à ce que All Boy proposait aussi, et puis enfin le temps de développement, parce que All Boy c'était 9 ans de développement et celui-ci il a mis 7 ans hein, quand même à le faire, et dans les deux cas bah ça valait le temps d'attendre en fait, parce que c'est assez exceptionnel la façon dont il a réussi à faire un espèce de jeu 16-32 bits pixel art dont on attend pas grand chose finalement. On se dit ça va juste être un jeu de plateforme et d'action Metroidvania
c'est déjà beaucoup hein,
qui est plutôt
mais...
ravissant, mais en fait qui fait plus que ça, qui se permet quand même d'être autre chose qu'une ressucée et un hommage à des jeux du passé. Alors comment est-ce qu'il procède? Déjà il procède parce que c'est un jeu qui est très bavard et qui a un scénario qui est vraiment très surprenant. C'est le truc peut-être le plus marquant.
Tant très bavard, moi ça me fait peur quand tu dis ça comme ça. Bah, ça sonne comme un défaut.
Bah, non, si c'est pour dire des trucs intéressants.
Mais voilà, c'est très intéressant. Ça raconte l'histoire d'une mécanicienne. Alors c'est dans un monde dans lequel on n'a pas le droit d'être mécanicien, il y a une espèce de protectorat qui s'assure que
c'est le footloose des mécaniciens quoi.
Je me souviens plus de Footloose, je suis désolé.
Footloose c'est une ville où t'as pas le droit de danser.
Ah moi je me rappelais plus. Voilà.
Et à la fin il danse comme dans les Simpsons.
Non mais merde.
Je me rappelle de Kevin Bacon quand il s'entraîne, mais après
c'est pas lui. En fait,
oui, bah, bien sûr, mais bon.
Lui, il fait seulement le plan où il atterrit comme ça, ouais. Clac devant la caméra.
Mais après, après je me rappelle plus du film.
La durée d'acteur.
Donc une mécanicienne dans une colonie. Le problème, c'est que elle se fait gauler et que ça crée toute une série d'événements et que bah elle va aller attaquer le mal par la racine, c'est-à-dire cette espèce de ce qui s'appelle le projet, une espèce de religion
projet,
un peu chelou.
Parce que c'est leur projet.
Exactement. Ah oui, tiens, j'avais pas pensé à ça, j'aurais dû le faire en intertitre. Bon, un truc un peu chelou qui se fout un peu de l'écologie au détriment d'une religion qui a l'air complètement factice. Bref, vous partez dans une espèce de quête à travers différents environnements où justement vous allez être armé d'une clé à molette qui va vous servir.
Une clé à molette de mécanicien ?
Ouais, absolument.
D'accord.
Qui va vous servir pour différents mécanismes, évidemment. Et puis. D'autres armes que je vais pas vous expliquer en large en travers.
C'est un peu Ratchet & Clank du coup quand même.
Un peu, mais pas trop.
D'accord.
Voilà. Bah, c'est un genre 2D hein, après donc Ratchet & Clank qui avait quand même était quand même un peu en 3D.
Oui, je parlais juste de la clé à molette hein, c'est
oui,
tout.
Oui, bah après t'as le droit d'avoir une clé non.
Oui.
Bon.
Ouais, puis frapper les gens avec, ça marche bien. Exactement.
Alors tu peux frapper avec, évidemment, mais tu peux aussi t'accrocher, enclencher des mécanismes de façon temporaire. Et donc, je disais t'accrocher pour essayer de gagner un peu plus de hauteur ou à certains endroits, profiter d'un espèce de rayon pour accélérer, pour faire quelque chose que tu peux pas faire autrement, c'est-à-dire exploser des cubes rouges que normalement tu peux exploser que avec une attaque rodéo. Il y a plein de variétés de choses que tu vas être amené à découvrir pendant le jeu. Et plein d'idées en fait. Pendant tout le jeu, ça n'arrête pas. Et tu te retrouves dans un espèce de truc vraiment charmant. Et en même temps, comme je le disais, le scénar qui est très bavard, c'est pas du tout un truc cucu. C'est pas un truc bon enfant. Alors, All Boy, je vais prendre l'exemple de All Boy. All Boy avait quelque chose qui n'était pas. C'était pas sombre du tout. Mais c'était pas ultra joyeux. Là, ça devient carrément sombre. Il se passe des trucs vraiment très très violents vis-à-vis du personnage principal et vis-à-vis notamment de son frère hein, qui va prendre très très cher. Mais en même temps, ça fait un élément comique dans le jeu. C'est rempli de rebondissements totalement inattendus, de surprises complètement folles. Et vous le voyez à l'écran hein, si vous êtes premium. Mais pour chaque monstre que vous allez affronter, il y aura toujours une subtilité à comprendre. Pour chaque obstacle. Comme ces rochers par exemple, il y aura un élément de votre armement qu'il faudra utiliser pour ouvrir ces coffres.
Ah, c'est une clé. Okay.
C'est une clé que vous allez choper, mais vous la ramassez un petit peu comme dans Super Mario Bros. 2 avec les navets et tout le reste.
Puis on aura un panneau en fait.
Oui aussi oui. Et donc il y a plein de secrets partout. Vous pouvez aussi ramper. Il y a pas que de l'action. Il y a beaucoup de réflexion. En fait, chaque endroit où vous allez arriver, ça va être beaucoup de réflexion pour savoir comment aller à tel autre endroit de la map. C'est vraiment ultra bien foutu, c'est extrêmement bien réalisé. Encore une fois, si vous êtes premium, vous pouvez voir, et si vous avez vu de toute façon les différentes bandes annonces, c'est du 16-32 bits de très très belle facture avec parfois des sprites gigantesques et qui vont très très vite aussi. C'est pas très dur comme jeu, mais il y a des moments où quand même faut y aller au niveau des réflexes et puis. Ouais, c'est voilà, il y a des moments où
t'as vu en chier un petit peu quand même. Par moment,
je crois que c'était au début de ma grippe aussi à ce moment-là. Donc oui, il y a des moments où ça peut être un peu plus compliqué.
Est-ce qu'on s'y perd pas un peu des fois parce que tu parlais du côté Metroidvania? Est-ce que le pathfinding est assez clair?
Oui. Ça va. Il y a une map de toute manière qui t'explique bien où t'es.
Qui est bien fichu.
Voilà. Et t'as des warps qui vont s'ouvrir par la suite. Bref, il y a pas trop de soucis, comme je disais. C'est vraiment une affaire d'équilibre entre réflexion, action, plateforme, qui est très bien amenée et des petites idées. Alors oui, avec la clé à molette, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que vous pouvez rester appuyé. Vous gagnerez ensuite le pouvoir de concentrer de l'électricité sur vous, ce qui fait que des objets qui seront à votre portée et qui sont sensibles à l'électricité réagiront. Mais vous pourrez aussi charger d'autres objets, par exemple, je sais pas, vos grenades, avec l'électricité qui est en vous. Bref, il y a plein de trucs à découvrir dans ce jeu. Je vais pas trop en dire.
Ça dure combien de temps du coup, lui?
J'ai mis une douzaine d'heures pour le finir.
Et c'est pareil, c'est un jeu à prix super réduit.
19€.
Ouais.
Voilà, 19€. Je l'ai fait sur PC en ce qui me concerne. Il existe aussi sur PS4 et PS Vita. Je crois qu'il est attendu sur d'autres plateformes, notamment la Switch. Il me semble que les développeurs ont dit qu'ils avaient
faire comme tout le monde
dans l'idée de sortir
ils avaient envie
aussi
de vendre leur jeu
sur Switch maintenant.
C'est que sur Switch du coup c'est comme sur PS Vita en son temps, c'est une plateforme qui vend beaucoup de jeux indés hein. On se rappelle que Wonder Boy, qui a été l'un des premiers d'entre eux,
se vendait plus
sur Switch que sur PS4, alors qu'il y avait une différence de base installée absolument faramineuse entre les deux consoles.
Ouais. Et de fenêtre de temps aussi. Vendu en moins de temps. Meat Boy aussi a fait des
scores
assez ouf.
Je pense qu'ils
ont
fait un gros travail Nintendo sur l'eShop qui met vraiment en valeur les petits jeux, entre guillemets. Par la taille ou le budget, etc.
Ah, mais du coup, je pensais le faire sur Vita, mais si tu me dis qu'il arrive sur Switch, peut-être que je vais.
Ils ont prévu, après, ça veut pas dire qu'il sort demain. Hein. Donc,
bon, de toute façon, j'ai tellement de trucs à faire là.
Quoi qu'il arrive, il faudra le surveiller. Et après, si vous voulez craquer sur PC, PS4 ou PS Vita, vous pouvez y aller. C'est un jeu vraiment qui mérite largement qu'on le fasse. Ne serait-ce que pour ce boss.
Il est génial ce boss.
Ouais, ne serait-ce que pour ce boss qui m'en a fait un peu baver parce que j'étais un peu à l'ouest.
Eh bien, bravo.
Bah, merci. Mais félicitations surtout aux développeurs de ce petit jeu.
Moi, tu me l'as vendu en tout cas.
Ils avaient fait autre chose
Non,
c'est leur premier jeu.
Enfin, il a sûrement dû faire des trucs à part, mais je les ai pas notés.
D'accord. Ok. On va passer au troisième de nos jeux indés, et cette fois je me tourne vers toi Camille, avec Subnautica, dont on a beaucoup entendu parler sur les internets également récemment, et pour cause, il vient de sortir, tu l'as testé aussi, et t'as trouvé ça excellent également.
Exactement, alors excellent. Pour la faire courte, alors en gros, c'est développé par Unknown World, qui ont déjà développé Natural Selection 1 et 2, qui étaient deux jeux qui avaient strictement rien à voir. C'était donc deux FPS, mais c'était aussi deux ovnis vidéoludiques. Et là, c'est pareil, un ovni, c'est un jeu de survie. Alors,
là, c'est plutôt être un jeu de Cousteau, non?
Ouais, non, bah tu verras. En gros, le jeu est sorti en Early Access en 2014, un peu à la période où c'était un peu la folie.
Early Access depuis 2014.
Ouais, c'était un peu la folie Early Access, mais ouais, c'est ça.
Ah oui, c'était à l'époque où DayZ fait des petits avec Rust.
Il y avait The Forest, il y avait Rust, effectivement, enfin c'était la
qui
folie.
Tous de...
qui finissent par sortir, ouais. Sauf DayZ qui est censé sortir cette année, mais voilà, ça commence à devenir
un jeu de survie en milieu aquatique.
Et plus que ça, avec une histoire. C'est-à-dire que contrairement par exemple, à The Forest qui est sorti un peu la même année, où c'était il y avait vraiment une ambiance, mais il n'y avait pas d'histoire vraiment précise. Là, il y a vraiment une histoire, un début, une fin, un scénario qui est posé, des bases qui sont posées. Donc, pour la faire courte, on est dans un vaisseau spatial, une sorte de vaisseau scientifique qui s'écrase sur une planète. On ne sait pas les raisons pour lesquelles ce vaisseau se crache, c'est un vaisseau humain, et sur une planète qui est constituée à 90% d'eau, donc comme on peut voir dans Star Wars, par exemple, la planète Kamino. Sauf que là, il n'y a pas de tempête, c'est vraiment souvent du beau temps. Et donc 90% d'eau, et évidemment, l'intérêt principal, ça va être de pouvoir explorer donc, les fonds marins. Et finalement, les jeux marins, et encore plus les jeux de survie, c'est quand même assez rare en fait. Il n'y en a pas eu tant que ça. Il y a eu quelques années, en 2015, il y a un jeu qui était... c'était un jeu de survie, encore une fois, mais avec des requins, où c'était une équipe qui devait chercher des trésors. Mais sinon, oui, le fond marin est un milieu très peu exploité.
Il n'y a pas Soma, non, en fond marin ? C'est pas Soma qui est en fond marin, je comprends.
Soma, c'est spécial. C'est sous-marin, mais en même temps, c'est dans un vaisseau spatial. Donc d'accord. C'est un peu étrange, mais c'est le milieu sous-marin n'est pas pleinement exploité dans Soma, parce que c'est vraiment du survival horror. Alors d'accord. Que là, c'est du survival pur, avec des notions de survie vraiment complexes. Et en fait, ce qui fait vraiment le charme de ce jeu, c'est que, alors, c'est un charme pour certains, et ça peut être vraiment agaçant pour d'autres, c'est qu'en fait, il n'y a aucune indication. C'est-à-dire que vous avez trois modes de jeu spécifiques. Alors, moi, je vous conseille évidemment de commencer par le mode survie, qui est le mode qui a été pensé pour le jeu, le mode classique avec la gestion de la faim, la gestion de la soif, etc. Parce qu'il y a aussi un autre mode de jeu où la faim et la soif n'ont pas d'incidence sur le jeu. Et un mode bac à sable où là, du coup, bah, c'est vraiment une fois que vous avez fini le jeu, ou alors pour vraiment apprendre les bases, mais enfin, je vous conseille pas de commencer par ça. C'est vraiment le mode survie qui a été pensé par les développeurs comme étant le mode principal.
Et quel mode scénarisé ?
Et quel mode scénarisé ? Et donc, c'est celui-ci que je vous conseille.
Et alors, attends, juste. Petite précision, du coup, tu incarnes un personnage en vue subjective ou est-ce que tu incarnes une multiplicité de personnages?
Non, t'incarnes un seul unique personnage qui est l'unique survivant en fait du vaisseau.
Ah d'accord,
en fait,
tout seul.
Ouais, quand le vaisseau, c'est justement ce qui fait le charme de ce jeu. Quand le vaisseau s'écrase dans l'eau, en fait, nous on s'échappe via une capsule de sauvetage et ça va être un peu notre module de survie. C'est là où va être réuni le peu de ressources qu'avait le vaisseau. Ça va être là que tout va être réuni, c'est-à-dire un peu de soins, un peu de nourriture, un outil de craft pour faire la cuisine, faire sur des petits objets, etc. Tout va être réuni là-dedans et petit à petit on va être amené à agrandir cette capsule de sauvetage qui fait quoi 5 mètres carrés et qu'on va être amené à agrandir pour en faire une véritable base sous-marine quoi. Et donc ce que je disais qui pouvait agacer une certaine partie des joueurs, c'est qu'on vraiment on est laissé pour compte, enfin on ne sait pas quoi faire.
Tâtonner en fait pour comprendre.
Exactement.
Ce que tu dois...
Mais pour moi, c'est vraiment une force du jeu, c'est qu'on va devoir justement tâtonner et chercher, et c'est ça qui va nous faire découvrir des.
Ça n'a rien à voir, mais moi, c'est ce que j'ai adoré dans Sea of Thieves, par exemple. Bah, c'est d'être lâché complètement et de découvrir toi-même à exactement, quoi te servent toutes les choses que tu peux avoir autour de toi.
Mais c'est
dans
pas
ton
si con comme parallèle parce que c'est assez proche dans l'esprit des développeurs. C'est vraiment ce qu'ils veulent refaire ressentir comme sentiment à leur communauté. C'est vraiment ça.
Et alors, ce qui est marrant aussi, c'est que je vois une autre chose, c'est que c'est en termes de réalisation. Alors on est bien loin du pixel art des deux premiers jeux dont on parlait. On est sur un truc un peu à la fois toonesque et réaliste quoi.
Exactement. Bah, encore une fois, on pourrait rapprocher ça de Sea of Thieves. Alors c'est ça s'éloigne un peu, mais Et autre chose aussi, il y a un système voxel, ce qui fait qu'on peut, évidemment, quand on construit notre base, on va pouvoir aménager le monde, creuser, etc., pour pouvoir construire, voilà, vous le voyez.
Ça, c'est ta base qu'on voit, du coup, c'est voilà. Ce que ça peut donner, en
version, voilà, vraiment high-tech, parce que sinon, vraiment, c'est vraiment une capsule ronde, circulaire, qui fait 5 mètres carrés.
Ouais, c'est un appart parisien,
voilà,
au début, quoi.
On a deux chaises, et puis c'est fini, quoi.
Mais du coup, j'imagine que dans les premières heures, tu vas mourir de faim, exactement. Mourir de soif, ce genre de truc, tu vas pas aller très très loin, en fait.
En gros, les seules indications que le jeu va nous donner, c'est via un PDA qui va, en fait, c'est l'intelligence artificielle de notre vaisseau qui est encore en vie, qui va nous donner quelques informations utiles du style il serait recommandable d'explorer un peu aux alentours, mais vraiment des infos basiques, enfin pas d'infos précises. Et donc là, on va se dire, on a trois jauges, on a une jauge de nourriture, une jauge d'eau et une jauge d'oxygène. Alors évidemment, elles sont toutes les unes importantes, mais la plus importante d'entre elles, ça va être la zone d'oxygène, puisque c'est celle qui va drastiquement baisser une fois qu'on est dans l'eau. Et donc du coup, on va se dire, ah mais merde, mes jauges sont en train de baisser, qu'est-ce que je dois faire? Donc on se doute qu'on va devoir chasser pour manger, on se doute qu'on va devoir récolter de l'eau pour s'hydrater, mais le truc c'est qu'on sait pas comment. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va plonger sous l'eau, basiquement, on va voir un poisson qui nage plus lentement que les autres, donc du coup on va le capturer, et on va l'amener à notre outil de craft dans le vaisseau, et on va le faire cuire, etc., et ça va nous donner de la bouffe.
Est-ce qu'on peut boire sa pisse dans le jeu?
On peut pas boire sa pisse, malheureusement. D'accord. Je suis désolé de te décevoir.
Ah non, parce que ça peut aider pour survivre en milieu hostile.
Ouais, mais c'est pas recommandé pour la santé.
Oui, mais bon, quand t'as plus que ça, ouais. Ça ou de l'eau salée.
Et bah, du coup, comment tu bois alors? Justement, alors on a certains poissons, des sortes de poissons qui existent d'ailleurs sur Terre, c'est les poissons qui peuvent grossir, sauf que là évidemment ce sont des races extraterrestres, donc c'est un peu différent, et en fait ce sont des poissons qui ont des poumons plus gros, et en fait on va pouvoir s'en servir pour les extraire et pour faire des bouteilles d'eau. Alors c'est pas très péta-like, mais...
Ouais, mais craftes des trucs avec, voilà, les poissons que tu pêches. C'est pas que de la nourriture, en fait.
Non, c'est pas que de la nourriture, parce qu'ensuite certains poissons vont donner certaines ressources qui vont être obligatoires. Enfin, je sais pas comment, sans vous spoiler, mais en gros on a notre outil de craft, on a différentes choses à construire, et pareil, il n'y a pas de plan, les plans sont inconnus, et les plans on va les découvrir au fur et à mesure qu'on découvre les ressources, en fait. Donc par exemple, on va découvrir, je sais pas, une plante sous-marine, on va la choper, on va se dire, ah bah tiens, ça c'est les graines d'orin, ça va pouvoir permettre de faire des batteries, on va pouvoir faire pourquoi pas un mécanisme pour avancer plus rapidement dans l'eau, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et en fait, c'est vraiment on est à tâtons, en fait. Et on est d'autant à tâtons que, en fait, les premières heures de jeu, quand on est dans le noir, en fait, on voit strictement rien. C'est-à-dire que c'est vraiment une vie aquatique qui est même très dangereuse. Et comme on connaît rien, on sait pas quelles créatures on doit se méfier et quelles créatures sont plus ou moins amicales. Et du coup, on a un effet un peu d'oppression. C'est un peu l'inverse d'Alien.
Tout est hostile.
Personne ne vous entendra crier, quoi. On est dans l'obscurité totale, on a des créatures comme sur Terre, hein. Plus on descend dans les profondeurs, plus on a des créatures de plus en plus grosses.
On voit des monstres qui font sacrément flipper là dans le trailer.
Ouais.
Quand même.
Et on a des monstres qui peuvent sortir de nulle part, venir vous choper, des araignées marines, etc. Enfin, on a plein de choses comme ça.
Ça doit d'autant plus faire flipper quand ils jouent en réalité virtuelle, parce que c'est un jeu qui se joue à la fois sur Oculus et sur Steam.
Exact.
Est-ce que tu as essayé?
Alors,
j'ai pas
essayé, mais apparemment il est pas encore. Enfin, il est pas aussi complet que le
c'est-à-dire que la version, on est sorti de l'early access, mais c'est pas encore complet
pour la version VR. Apparemment elle est pas il y a encore quelques petits soucis,
mais ça vaut le coup d'essayer, mais ça vaut le coup parce que ces passages où tu sors et tu sais pas trop si les monstres que tu vas croiser vont te sauter dessus ou pas, etc.
Je vous conseille pas d'être claustrophobe pour jouer à ce jeu, parce que c'est vraiment pourtant c'est des espaces assez larges, mais on a quand même une sensation de claustrophobie, puisque quand on est très très loin, sous le niveau de la mer, on descend à 200, 300, 400, 500 mètres, et on se dit, si je remonte pas vite, on a sa barre d'oxygène qui va descendre de plus en plus, et on commence à stresser, l'adrénaline monte. Et en sachant qu'en plus, comme je le disais, la nuit, il y a toutes les créatures qui montent, puisqu'en fait, le but des développeurs, c'est de proposer une flore et une faune qui soient vivantes et qui soient un minimum cohérentes. Donc la nuit, il y a les prédateurs sortent pour chasser les créatures. Le jour, c'est plus ou moins calme, et du coup, on a les herbivores sous-marins qui se dandinent dans l'eau. Et on va pouvoir, comme ça, faire partir à la chasse, et c'est vraiment, vraiment intéressant. Et comme je disais, on a une histoire. Alors l'histoire, c'est un peu le défaut, et en même temps, avantage, c'est-à-dire que l'histoire, elle est intéressante, mais elle est parfois mal amenée. C'est-à-dire que j'ai même pas su souligner en fait dans le test si c'était un souhait des développeurs ou alors si c'était un défaut, parce qu'en fait à certains moments on va devoir chercher extrêmement longtemps avant de savoir comment faire évoluer l'histoire. En fait, on va arriver à un endroit au hasard, complètement au hasard, on sait même pas pourquoi on est arrivé là, parce que voilà, on était à la recherche d'une ressource et on est arrivé à cet endroit là et tout d'un coup il va y avoir un événement qui va se passer, on va recevoir un message radio, etc. Mais
c'est ça qui va faire avancer l'histoire, voilà, mais si t'étais pas allé là t'aurais jamais
et donc c'est ça, t'as des zones trigger en fait, et c'est en allant moment donné ici tu vas enfin faire avancer le scénario. Du coup
la problématique qui n'en est pas finalement pas une, c'est que des fois on sait pas si l'histoire avance parce qu'on est dans une zone spécifique ou si l'histoire aurait aussi avancé si on était dans une autre zone, et c'est un peu le truc qui est un peu gênant à certains moments, c'est à dire qu'on est un peu laissé pour compte, on sait pas vraiment quoi faire.
Ouais. Oui, mais t'as pas trouvé une logique en fait derrière les triggers qui se déclenchent.
C'est très difficile de trouver la logique parce que on sait pas si ça se trouve c'était vraiment une question de temps. Au bout d'un certain temps, l'event est programmé pour qu'il y ait quelque chose qui se passe, et on sait pas si c'est vraiment le temps ou si c'est la zone géographique. Alors des fois ça peut être un peu problématique. Alors par contre, il y a certains trucs qui sont pour le coup très précis. Par exemple, à un moment on sait que le vaisseau qui s'est écrasé va finir par exploser. Donc là c'est pas du spoil hein, parce que on le comprend dès les premières minutes de jeu. En gros, c'est le moteur marche par c'est un moteur à nucléaire, et en fait il est plus fourni en énergie, donc il va y avoir une surtension et ça va exploser, et
c'est ce qui nous attend tous.
Ouais pourquoi pas. Et du coup on va aussi devoir gérer comme dans Stalker,
les radiations,
et ça c'est une autre notion qui arrive un peu plus tard dans le jeu, parce qu'on va se rendre compte qu'évidemment le vaisseau c'est un vrai véritable havre pour les ressources qui sont assez rares, et du coup pour les récupérer on va devoir se crafter une combinaison et qui résiste aux radiations. Et donc il y a plein de choses comme ça qui sont très sympathiques. Le jeu est sorti en version finale au mois de janvier, donc sur PC, mais il y a la version Xbox One qui est elle encore en Early Access, et pour l'instant il n'y a pas de version PS4 qui est prévue.
On peut aussi faire l'Early Access sur Xbox One.
Exactement,
ça fait partie des jeux Early Access. Faudrait que je rejette un œil d'ailleurs au fameux comment s'appelle-t-il, Elite Repoussé lui aussi. Happy Few.
C'est vrai que ça fait longtemps ça aussi.
Et on l'a dans la Xbox ici parce qu'on avait.
Ils ont voulu se donner un petit peu plus de temps pour refaire le début du jeu qui n'était pas à leur goût.
Je sais pas si c'est une bonne chose, une mauvaise chose, le early access pour les jeux vidéo, mais bon, c'est une réflexion. J'ai envie de dire, ça dépend des jeux.
Par exemple, là, typiquement, c'est un exemple où pendant beaucoup de temps, les gens se disaient, mais le jeu va jamais sortir. Et en fait, hop, surprise, une annonce l'année dernière, en fin d'année, ça sortira en début d'année 2018. Et puis voilà. Et de plus en plus, on a des petites surprises comme ça de jeux qui sont restés très très longtemps en early access.
Rust,
The Forest aussi.
Rust.
Ouais, exactement.
Est-ce qu'il y a des jeux que ça ne dessert pas, ça, justement?
Je pense que si.
Toute la hype disparaît pendant l'early access. Et puis quand ils sortent, tout le monde s'en fout.
Peut-être que. Ah non, Ark, ça a été, je crois aussi.
Subnautica a eu de la chance, par exemple, la hype n'est pas redescendue. Au contraire, il y a eu un moment de latence effectivement pendant toute l'année 2015 et 2016 où c'était vraiment il y avait des journaux de développeurs.
Ah oui, Happy Few, plus personne n'en parle. Après le jour où il va se relancer, probablement qu'on va
pour l'instant.
Mais du coup, c'est vrai que ça pourrait, c'est une grosse réflexion sur le sujet, quoi, parce qu'il y a des jeux qui s'en sortent très bien, ou même on va dire qu'ils sont obligés d'utiliser ce système pour pouvoir continuer à financer le jeu, et d'autres on sait pas, c'est un peu plus ou moins du filoutage, quoi, on sait pas vraiment ce qui se passe. Par exemple pour DayZ, c'est vrai que c'est assez problématique, quoi. Mais en tout cas Subnautica, c'est vraiment une
là,
très,
tel qu'il
très bonne
est
cache.
Là il est fini et
le jeu est
plaisant.
Fini, il est plaisant, j'ai mis 8/10, il les vaut largement, et honnêtement c'est un des meilleurs jeux de survie de ces dernières années. Alors en même temps c'est pas forcément difficile puisqu'il y avait, on avait quand même des jeux qui n'étaient pas forcément terribles, mais en tout cas c'est un jeu, en plus d'être un jeu de survie, qui est un jeu qui sort de l'ordinaire. C'est vraiment un ovni qui utilise à fond l'univers de fond marin et qui utilise vraiment pour le bien de l'histoire, et c'est vraiment bien trouvé et c'est une très bonne pioche.
Du coup, j'imagine que la durée de vie elle est pas évidente à évaluer parce que ça va dépendre de chacun en fait. Où est-ce que tu vas aller naturellement explorer.
Je sais que
explorer.
Par exemple Julo sur Sea of Thieves a passé beaucoup de temps à admirer les paysages, etc., et t'as un peu cette sensation là dans Subnautica.
De contemplatif.
Un côté très contemplatif. Tu vas descendre dans les fonds marins petit à petit. Tu vas, quand tu vas avoir une bouteille d'oxygène supplémentaire, tu vas rester un peu plus longtemps. Donc du coup, tu vas prendre le temps de regarder les choses. Il y a certaines ressources, comme tu les connais pas, du coup, tu vas les chercher. En les cherchant, tu vas prendre le temps d'admirer. Et puis c'est très joli. Il y a des moments avec des nuancées de couleurs. Plus tu descends profondément, des nuances de violet, de noir, etc. C'est très très joli selon les endroits. Des plantes aussi qui mettent des couleurs, des espèces de champignons un peu radioactifs qui mettent des couleurs jaunes au fond de l'eau. Enfin, c'est vraiment très joli. Des coraux, etc. Et c'est vraiment très très beau. ça, c'est, effectivement, c'est contemplatif.
Mais du coup, toi, pour le terminer, tu sais à peu près combien de temps t'as mis?
J'ai mis une trentaine d'heures. Mais j'ai pas pris mon temps parce que j'avais c'est vrai que j'avais d'autres jeux sur le feu et du coup j'ai pas pu prendre
mais ça
mon
donne
temps
une bonne idée déjà du temps que tu peux y passer
mais quoi. Ouais voilà mais sinon en jouant honnêtement je pense que si j'avais vraiment pris mon temps j'aurais mis une 10 heures de plus quoi parce que il y a des trucs j'avoue que honte à moi j'ai regardé aussi des astuces sur les forums parce qu'il y a des trucs je ne trouvais vraiment pas la solution et j'avais pas vraiment le temps de chercher. Et ça prouve encore une fois que c'est un jeu de recherche quoi. Et malheureusement, je sais que ça va pas plaire à tout le monde.
Souvent, ce genre de jeu, c'est quelque chose d'assez communautaire. Hein. C'est des mecs qui partagent, qui partagent leurs découvertes sur des wikis qui ont été créés.
The Witness, c'était déjà ça aussi.
Ouais.
C'était un jeu. Je me rappelle, tu demandais, à nos collègues, etc. Enfin, il y avait des trucs. C'était très difficile. Et sans l'aide de quelqu'un, une tierce personne, ça pouvait être.
C'est tellement
meilleur.
Les jeux comme Don't Starve, pardon, de choses qui me font penser un peu à Subnautica de ce point de vue. Honnêtement, c'est totalement le genre de jeu où il faut pas. J'avais l'impression que t'avais honte quand tu disais ça. C'est pour ça.
Il faut pas avoir
honte justement. Au contraire, ça fait partie du truc.
Ouais, mais tu sais que des fois, quand tu te lances dans un jeu, t'as vraiment envie de tout faire par toi-même, etc. Et tu te dis ah merde, j'ai pas envie de me spoiler la suite. J'ai pas envie de savoir comment ça se passe. Puisque j'ai envie de te mettre dans la peau de la majorité des joueurs en fait. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont finalement pas regarder la solution et vont vouloir chercher par eux-mêmes. Et donc ça peut gâcher certains aspects, mais je sais vraiment que beaucoup de gens, enfin pas beaucoup de gens, mais certaines personnes ne vont pas aimer. Surtout que de nos jours, on est vraiment dans une société où on veut toutes les choses, tout soit hyper rapide, avoir la solution directement, et là c'est vraiment le jeu à l'inverse de ça. Quoi.
La Sistana, ça.
Ouais.
On n'arrête pas d'en parler ces derniers
temps. Une forme de cancer, tu veux dire.
Exactement, Thomas.
Du coup, il va s'étouffer dans sa propre connerie.
Dans Céleste, hein, le mode facile s'appelle le mode assisté, hein, d'ailleurs.
C'est tout à fait. Vauquier est dans tous les jeux en ce moment.
Ouais.
Eh bien, très rapidement, hein, parce qu'on va pas perdre trop de temps avec ces deux jeux qui sont d'une bien moindre qualité. Il y a également eu le test de The Impatient cette semaine. C'est moi qui m'en suis occupé.
Ah bon ?
Et je peux vous le dire, cette préquelle à Until Dawn. Ça se passe 60 ans avant les événements de Until Dawn.
C'est une sacrée préquelle à ce niveau-là.
Hein. Est assez décevante au global. Alors, le jeu est assez rapide. Hein. Il se termine environ en 2h30, 3h, quelque chose comme ça. La première partie m'a pas mal plu parce qu'elle était forte en émotion et plutôt en jumpscares d'ailleurs. Hein. J'ai hurlé comme un malade.
On confirme.
À la rédac, je vous ai empêché de travailler et j'en suis vraiment désolé.
Ah non, tu nous as bien fait rire.
Et la deuxième partie, beaucoup moins chargée en jumpscares et beaucoup plus en exploration, mais qui s'avère finalement assez décevante à peu près à tous les niveaux, gameplay, scénario, etc. Et ce qui est assez décevant aussi, c'est que vous connaissez le principe de l'effet papillon parce que vous avez joué Until Dawn. En gros, c'est comme dans les jeux Quantic Dream, etc. Quand vous faites quelque chose ou quand vous dites quelque chose, eh bien ça peut changer totalement le cours de l'histoire à certains moments clés. Sauf que là, les moments effet papillon ne changent pas grand chose sur une histoire si courte en plus, hein, c'est pas
ouais,
facile.
T'es en train de nous dire que sur 2h30 il y a une moitié qui t'a moins plu en fait que la première du coup.
Oui, et en ce qui concerne l'effet papillon, tout est concentré à la fin pour mettre histoire de checker plusieurs fins. Oui, il y a plusieurs fins, mais tout se décante un petit peu avec des choix à la fin. Voilà, l'idée c'est de garder des gens en vie, hein, comme dans Until Dawn. Tu peux en garder 2, 3, 4 en vie, mais ça change pas grand chose et tu traverses le jeu de manière un peu désabusée comme ça. Voilà.
Tu vas pas le refaire pour essayer les autres fins du coup?
Non,
a priori.
J'étais sur YouTube pour voir les autres fins parce que ça me faisait chier d'aller les refaire. Surtout qu'il faut recommencer tout le jeu, etc. Alors c'est pas long, hein, mais.
Tu vois, Camille, Julien n'a pas honte, il va sur YouTube. Voilà.
Typiquement, pour ce jeu là, oui, c'est à dire que je l'ai fait entièrement une fois. Et trouvais que l'intérêt de le refaire n'était pas suffisant, sinon je l'aurais refait avec plaisir. Et j'ai dit voilà, je vais aller voir sur YouTube quelles sont les différences. Donc voilà, un petit peu décevant. 5 sur 10, si je me souviens bien. Moyen. Voilà.
C'est encore. Comment il s'appelle ?
Massive.
Supermassive.
Supermassive, ouais.
Ouais, donc qu'on déjà fait aussi Eden Agenda, etc.
Supermassive, ils sont super actifs.
Ouais, mais c'est peut-être un peu trop. Hein.
C'est peut-être un peu too much. C'est-à-dire qu'ils ont fait. Until Dawn, qui a surpris tout le monde et que tout le monde a applaudi.
Un excellent jeu.
Un excellent jeu. Ils ont enchaîné. Alors, il y a Sony qui a dit on lance le casque de PlayStation VR. Pas de problème, les mecs. On vous fait Until Dawn, Rush of Blood. Ça sera dispo au lancement. Youpi. Alors, ils en font ça. Ensuite, les gars, on lance un nouveau truc. Ça s'appelle Play Link. C'est l'histoire de VR. Ouais, attends, vas-y. On en fait deux. Ils en ont fait deux.
on arrive à plus que ça encore. Non. Il va y avoir le. Attends, il y a celui-ci.
Oui, attends.
Il y a le truc de, gun là dont j'ai oublié le nom.
Et donc, on a besoin à nouveau de jeux pour le PlayStation VR. Boum, The Impatient. Et ils sont encore en train de faire Bravo Team qui arrive au mois de mars, je crois. Bref, c'est peut-être un peu trop.
Plus Hidden Agenda dont on a parlé.
Du coup, je le trouve un peu bâclé, un petit peu facile en fait, ce Impatient. Voilà. Donc, si vous avez le PlayStation VR,
donnez-lui
éventuellement une chance, je sais pas, en occasion, voilà. Mais pas forcément là, comme ça, tout de suite. Surtout, surtout qu'il n'aurait pas vendu au prix fort d'un vrai jeu, mais je crois que c'est pas 40 euros, un truc comme ça.
Ouais, ou ça finira peut-être dans le PS Plus.
Attendez le PS Plus ou l'occasion, etc. Parce que, voilà, si vous êtes fan de Until Dawn, c'est quand même cool de voir l'après-quel, je pense. Ou alors vous allez sur YouTube.
Vous streamez les 2h30.
Voilà, voilà. Bon, allez, c'était, je voulais faire vite, donc on fait vite. Et toi, mon cher Thomas, sans surprise, Lost Sphere, c'est un peu de la merde. Non, pardon, c'est pas terrible.
Ouais, c'est ça. D'ailleurs, que c'était un peu violent quand même.
Oui, oui.
Alors, ça commence comme ça, c'est-à-dire que dans les premières heures, tu te dis, mais pourquoi je joue à ce truc?
C'est tout. Tu te rappelles que c'est pour le boulot.
Ouais, alors déjà. Ah bah, là, pour le
mais
coup.
Tu dis, bon, ça va en fait.
Là, pour le coup, je peux te dire que oui. C'est-à-dire que le jeu commence pas sous les meilleurs auspices. C'est tous les clichés du JRPG, mais genre tous les clichés relous, tu
On
vois.
On t'explique les trucs 15 fois sous un
alors,
ton.
Tu commences,
mielleux.
Tu te réveilles, t'es un orphelin, mais t'as vécu un flashback et t'as ta copine qui t'appelle. Et. Bah, tu explores ton village et tous les trois putains de pas, il y a une cutscene qui se déclenche, enfin, il y a un dialogue, c'est-à-dire que c'est un jeu qui arrête ta progression toutes les 30 secondes montre en main pour que les personnages échangent des trucs
banalités.
Qui, mais les banalités les plus osef de la Terre. C'est-à-dire que tu t'en
pas des banalités, c'est des trucs un peu.
Tu t'en fous,
un peu cucu,
mais du début à la fin, quoi. Et heureusement.
C'est cucu ou c'est pas cucu?
C'est chiant. Oui, c'est cucu. Oui, c'est...
Moi, je supporte plus les RPG cucu, moi.
Tiens, oh, bah regarde, Julo, il est à terre, mais hé, hey, Julo, mais qu'est-ce qui s'est passé? Viens, on t'emmène voir plus, machin, il va te remettre sur
il
pied.
Il va te faire gouzi-gouzi.
Ou alors, voilà. quand il t'explique des comment dire,
des mécaniques.
Des mécaniques de gameplay, qu'il te les explique 10 fois de suite pour être sûr que t'as bien compris.
Alors là, non. En l'occurrence, non.
Non,
c'est,
ça va, ça.
Là,
ouais.
C'est même exactement l'inverse, en fait. C'est-à-dire que t'as intérêt à comprendre tout de suite les quelques petites subtilités du système de combat, parce qu'il y en a quand même quelques-unes. On le voit à l'écran. S'il fallait citer une inspiration principale pour le système de combat, c'est clairement Chrono Trigger, même s'il n'arrive pas.
C'est pas une mauvaise inspiration.
Ouais, mais bon, tu peux t'inspirer. Je peux te dire que je vais essayer de peindre en m'inspirant de Monet. Je vais quand même faire de la merde, tu vois. Enfin, ça ne présage de rien. Mais en l'occurrence, non, parce que je sais pas peindre, donc tu vois.
Oui, ah, on avait pas compris.
Oui, non, si vous regardez avec une tronche.
Ouais, parce qu'on se disait, ça se trouve, tu t'inspires de Monet, tu vas y arriver.
Non,
quoi.
Non,
enfin,
pas
voilà.
du tout. Mais pour le coup, ouais, c'est du combat en réel avec des jauges qui grimpent, les ennemis qui sont présents à l'écran et qui se déplacent en fait au fur et à mesure qu'ils veulent vous attaquer. Donc ça veut dire qu'il y a des attaques de zone qu'il faut bien calculer, il y a des combinaisons entre les personnages qui sont possibles. Donc il faut se déplacer pour des fois réussir à toucher plusieurs ennemis en même temps. Donc c'est pas inintéressant, mais il faut non, mais il faut lui donner le temps d'arriver en fait à
maturité.
À ce genre de truc, et au bout d'un moment en fait on débloque des comme des Eva, ça s'appelle des exomecs, des petits robots
et là ça gagne un petit peu en intérêt.
Bah là du coup tu peux explorer la world map avec ces robots, mais tu peux aussi les utiliser en combat, sachant qu'ils ont une jauge que vous voyez peut-être en bas à droite de l'écran, là en tout cas sur l'image que Poufy nous a mis, c'est une jauge de points qui est commune à toute ton équipe, donc il va falloir garder à l'esprit tous ces paramètres et ça donne une dimension un petit peu stratégique au. Et j'en ai pas parlé, mais l'une des autres features du jeu, c'est qu'en fait, une partie du monde a disparu. Alors le terme qu'utilise le jeu, c'est perdu. Donc en fait, il y a des villes entières, il y a des océans, il y a des parties du globe qui sont perdues.
Tu veux dire, ils étaient là et pouf pouf, ils ont disparu ?
Exactement.
D'accord.
Mais c'est exactement ce qui se passe, comme dans la cité de la peur, effectivement. Et ben, il va falloir les retrouver. Et au comble du hasard, le personnage que vous incarnez, eh ben, il est super balèze et il a la capacité en fait de synthétiser les souvenirs des gens pour faire revivre certains trucs, des objets, des villes entières.
Moralité,
donc,
6 sur 10, c'est ça.
C'est exactement ça. Vraiment, si vous l'achetez, il faut pas vous fier aux premières heures de jeu, parce que vraiment les premières heures, tu te dis mais pourquoi ? Où est l'intérêt ? Et bah, au fur et à mesure, ça vient, et puis finalement le jeu est pas si manichéen que ça, le scénario se développe un petit peu, voilà. Musique sympathique, et puis bah, voilà, cette feature des souvenirs qui est un peu intégrée au gameplay de manière assez intelligente, donc il prend un tout petit peu son envol au fur et à mesure, mais clairement, s'il y a plein de trucs qui vous saoulent dans les JRPG, faut pas faire le Sphere, parce que vraiment, ils sont
tous dedans.
C'est même le contraire, c'est pour les fans de JRPG un peu en manque.
Bah, c'est presque que pour les nostalgiques en fait. Sauf que, refaites Chrono Trigger, quoi, par exemple.
Peut-être fait 10 fois déjà.
Faites-le une 11e fois. De toute façon, il y a plein de
fois. Mais non, mais jouer à changer de style, jouer à Céleste, Iconoclast ou Subnautica.
Ou rejouer à Xenogears qui fête ses 20 ans cette année.
Il faut que je te repasse d'ailleurs.
Oui, il faut que tu me le repasses, c'est ça.
Bon, les amis, voilà un peu pour la valse. La valse des tests.
On passe. C'était évoqué, valse.
Elle était à 3 ans.
Il va falloir qu'on.
Ah bah, on peut
qu'on accélère un peu pour visiter tous les autres.
Ouais, hein, ouais.
Politique.
En gros, quand t'as joué à Lost Fear, il faut leur demander de rendre l'argent, quoi.
Ah, c'est ouais. Pas mal. Sachant qu'hier soir il y avait un documentaire sur la campagne de Fillon.
Putain, mais arrêtez, faut que je vous parle d'un truc à la fin de le podcast, parce que là pour ma vie elle est chamboulée.
Okay. Apparemment il y a eu deux documentaires justement. Oui, il faut que je vois les deux.
Ah oui, un sur FM et un sur France 5.
Bah, intéressant ça, cette histoire. Il faudrait demander à
un jour je vous raconterai sur votre podcast comment j'ai été au cœur.
Oh, le teasing
de tout ça.
Eh ben, on a hâte que ce podcast se termine du coup, pour savoir ce qui s'est passé.
Donc bref, les restes de l'actu, les amis. On va s'intéresser au alors il y a eu pas mal
les restes de la grippe aussi, si vous en voulez.
Il y a eu beaucoup de choses la semaine dernière.
Je crois que j'en ai récupéré quelques-unes.
On va garder vraiment les choses les plus marquantes. Alors pour ma part, je dirais cette news sur le fait que Microsoft envisagerait de racheter Electronic Arts, rien de moins.
Ah putain, je croyais que c'est parce que j'avais de la fièvre que j'avais.
Non. Et t'as vu cette superbe image, c'est moi qui l'ai faite, elle est jolie. Hein.
Putain, mais c'est génial. Ça m'a fait monter avec lui de finesse.
Tiens, on a l'impression de voir à travers la bouche du monstre qui vient de manger.
Ouais, c'est fou ça.
Ah, c'est magnifique.
Il y a un symbole là-dedans.
Ah, donc, effectivement, alors Microsoft, ça vient pas de nulle part. Hein. Ça a été publié par Polygon qui tiendrait ça. D'un interne de Microsoft, une source sûre, disent-ils, qui leur aurait glissé donc à l'oreille que Microsoft comptait vraiment dans les mois qui viennent passer à l'attaque et régler l'un des plus gros problèmes de la branche Xbox, hein, parce que tous les problèmes ont plus ou moins été réglés hein, depuis pas mal de temps. La console a été refaite, on a augmenté la gamme avec une console Xbox One X qui est la console la plus puissante du monde. On a lancé le Game Pass, on a rattrapé un peu les erreurs du passé, quoi, petit à petit. On a lancé la rétrocompatibilité, tout ça a été fait. Donc
il manque plus qu'un truc pour que cette console fonctionne.
Des jeux. Exactement. Voilà. Et Phil Spencer, on est bien conscient.
On n'a pas oublié un truc, les mecs, là, dans la stratégie.
D'ailleurs, Phil Spencer l'avait clairement déclaré il y a quelques semaines, en disant voilà, on se rend bien compte qu'on n'a pas assez dans le catalogue exclusif, et c'est bien quelque chose auquel on compte remédier. Il avait dit à l'époque, y compris par le rachat de studios. Voilà.
Donc sauf là, que là petit studio.
Voilà, on s'imagine rachat de petits studios pour récupérer un jeu, etc. Non, probablement Electronic Arts. Alors, pour appuyer un petit peu leurs propos, Polygon, ils se sont adressés à plusieurs analystes du milieu. Bon, voilà, on pense ce qu'on veut des analystes, mais en tout cas, là, ils étaient plusieurs, et ils avaient tous à peu près le même son de cloche. C'est que d'une part, stratégiquement, ils pensent que c'est exactement ce que va et doit faire Microsoft, et que d'autre part, en termes de pognon, c'est pas une opération aussi folle et dingo que ce qu'on imagine. Il faut savoir que Electronic Arts pèse, alors vous allez me dire c'est beaucoup, tout de même la coquette somme de 35 milliards. C'est beaucoup, 35 milliards. Mais quelle est la réserve de liquidité de Microsoft actuellement? Et bien c'est 130 milliards, messieurs. Ça c'est la première chose.
Donc, qui dorment dans les caisses et qui sont
sur
prêts.
Sur le point de vue comptable, c'est possible. Ensuite, d'autres signaux sont au vert, si je puis m'exprimer ainsi. Hein. Le vert Xbox. On est avec un nouveau président depuis quelques années. Vous savez, Steve Ballmer avait laissé sa place
à Satya Nadella.
Satya Nadella, qui est beaucoup plus enclin à développer la branche jeux vidéo. Hein. Xbox, c'était un petit peu le parent pauvre chez Microsoft. Aujourd'hui, c'est plutôt au cœur de la stratégie. D'ailleurs, en 2014, rappelez-vous, pour 2,5 milliards de dollars, Microsoft avait tout de même racheté Mojang pour pouvoir exploiter Minecraft, avec le succès que vous connaissez. Mais d'ailleurs, aujourd'hui, on le retrouve sur Switch. C'est bien ce jeu, j'y jouerais bien sur Switch. C'est un jeu Microsoft, on s'en fout, j'y jouerais bien sur Switch. Et bah, tu peux y jouer sur Switch.
C'est ce qui risque de se passer pour pas mal des licences d'Electronic Arts, si jamais c'était avéré, en fait.
Et donc, effectivement, tout à fait.
On imagine mal les FIFA et qu'on sort devenir d'un coup surtout, exclusif évidemment. À la Xbox.
Et c'est vrai que ça serait un suicide commercial. L'exemple Mojang n'est pas à écarter, loin de là. Bref, ça paraît vraiment comme une possibilité. Et moi, à vrai dire, j'ai envie de vous demander, qu'en pensez-vous? Moi, de mon côté, Je pense que ce serait un coup de maître, mais absolu. Alors je ne sais pas dans quelle mesure c'est possible, dans quelle mesure Electronic Arts doit être d'accord, entre guillemets, parce que vous savez, les histoires de bourse et tout ça, c'est plutôt facile, à partir du moment où tu as les liquidités, de prendre le contrôle d'une société qui est en bourse.
Une petite
facile,
OPA,
entre guillemets. Voilà. Dans tous les cas, ça réglerait pas mal de problèmes d'Electronic Arts. On parlait tout à l'heure d'un petit jeu qui a été repoussé, qui s'appelle Anthem. On parlait de Battlefield, on parlait de Mirror's Edge, de quoi d'autre on a parlé. Enfin, je veux dire, le catalogue est absolument monstrueux, et surtout pour le côté sportif également, c'est FIFA, Madden,
même des anciennes licences qu'on a tendance à oublier.
En plus, ils ont fait des mauvais résultats financiers.
Donc, ça, je crois que c'est la meilleure opération qu'ils puissent faire en termes d'éditeurs, de
sur
gros éditeurs à acheter, c'est probablement
notamment Battlefront 2 qui s'est un peu
Et puis je trouve que ça s'inscrit totalement dans la stratégie qui semble se dessiner pour le futur de Microsoft et le futur de Xbox. Xbox, je ne le vois pas du tout à terme comme une machine, mais comme un service. Et je crois vraiment que c'est ce que veut Microsoft en définitive. Là, une fois qu'il aura bien lancé son Netflix, c'est-à-dire le Game Pass, qu'il aura d'ailleurs rendu la possibilité aux joueurs de streamer les jeux plutôt que de les télécharger, quand il aura fait ses quelques acquisitions, etc., tout laisse à penser que d'ailleurs c'est dans l'ADN de Microsoft, qui n'est pas du tout une entreprise hardware, mais une entreprise software pure et dure, de développer Xbox comme une marque de jeu et pas comme une marque de console, quoi. Comme une marque de service de jeu plutôt qu'une console. Bref, tout ça me paraît plausible.
Oui, bah après, comme Disney qui rachète à tour de bras tout ce qui tombe dans le milieu du cinéma ou de la série, enfin toutes les franchises qui existent maintenant sont chez Disney, que ce soit Marvel, Star Wars, etc.
Et Simpson.
Pourquoi Microsoft, mais Simpson aussi ? Ah oui, la Fox, oui, c'est
ils
vrai,
ont
bah
racheté
oui,
la Fox, donc voilà, tout arrive.
Pourquoi Microsoft ne ferait pas la même chose avec des gros
c'est
noms, des
énorme,
gros
parce
éditeurs
que quand on le voit comme ça, on se dit c'est impossible.
Enfin, ouais, mais ils ont les fonds. Ça fait plusieurs années qu'ils ont les fonds chez Microsoft.
Oui, parce qu'on parle pas d'Xbox, on parle bien de Microsoft. Ouais. C'est ça qui fait la différence.
Et je vous laisse imaginer. Alors, rappelez-vous quand, à la Gamescom de je sais plus quelle année, Microsoft avait annoncé que le prochain Tomb Raider, et tout le monde avait adoré Tomb Raider, le reboot, le prochain sera en exclusivité sur Microsoft. Vous vous rappelez ce que ça avait créé? Oh non, machin, etc. C'est un scandale. Pourquoi priver les joueurs? Et là, t'imagines, ils rachètent Electronic Arts. Ce truc, le shitstorm que ça crée derrière.
Ouais, non, ça dépend de la stratégie, ça dépend de la manière dont ils vont
communiquer. Ça dépend du public,
autour du rachat.
De nœuds, de toute façon.
Bah, il y aura toujours des gens pour gueuler de toute façon.
Oui,
mais
il y a des gens qui gueulent pour dire que God of War, quand il va sortir, oh mon dieu, quelle honte, il est exclusif à la PS4, vous privez les joueurs Microsoft ou les joueurs PC.
Mais c'est marrant cette.
Enfin, c'est complètement.
C'est débile à la base.
Oui, non, mais faut avoir un sacré.
Et alors, figurez-vous que les fameux analystes et le site Polygon également disaient qu'ils étaient convaincus que cette annonce, ce mouvement serait effectué dans les meilleurs délais, très rapidement. Et donc, on imagine probablement avant l'E3, sachant que Microsoft fait pas mal de teasing sur le prochain E3, sur... vous verrez, etc. Donc,
oui, mais ça, ils le vendent tous les ans.
C'est vrai.
C'est bien, ça coûte rien.
Ah, ouais, World Premiere.
Exactement.
Donc, bah voilà, on verra. En tout cas, si c'est ça, ça serait quand même assez bluffant. Dans les rachats de Microsoft, ils ont d'ailleurs racheté une petite boîte, entre guillemets, qui s'appelle PlayFab, qui fait du cloud gaming, qui bosse avec Bandai Namco, avec tout un tas de gros sur des jeux mobiles, etc. Donc, ils rajoutent ça à leur portfolio pour améliorer le service Azure. Le cloud selon Microsoft, et par ailleurs toujours selon le fameux article, l'article qui s'appelle en l'occurrence la 49, Xbox 3, One a un sérieux problème de jeu exclusif.
Elle était fatiguée, c'est pour ça que ça va être vitesse.
Il s'intéresserait également à deux autres sociétés qui sont Valve.
Et j'y crois pas du tout, alors ça.
Non, mais Valve.
Pas du tout. J'y crois tellement pas.
Ça fait des années, je sais plus, on en a parlé dans les podcasts, ça nous est arrivé de dire un rapprochement entre Microsoft et Steam,
et
etc.
Ça vous
mais
alors, impossible, Valve
mais vous. Mais...
Bah, c'est le bébé de Game Newell, il va jamais.
Mais,
jamais
mais Valve, ils sont en bourse ou pas
dans leur coin.
Non, ouais, jamais ils s'en
bourse. Ils ont même pas. Jamais ça leur passerait par le crâne de s'associer à qui que ce soit à Valve. C'est les maîtres du monde.
Est-ce que c'est en bourse
Valve?
Oui.
Je pense que oui.
Ça dépend beaucoup de ça, je pense. Hein,
peut-être.
Bah,
je pense qu'ils feront toujours tout.
Ça dépend de qui détient les actions
tout,
aussi.
Ils feront tout pour sécuriser.
Ça dépend de qui détient les actions, effectivement.
Mais jamais. Enfin, limite, Valve, ils vont rester indépendants.
Si c'est pour faire un Portal 3.
On sera mort depuis 200 ans. Ils seront encore indépendants, je pense, Valve. Donc,
après, c'est vrai que Microsoft, ils ont un gros souci. En tout cas, sur PC, c'est leur plateforme dégueulasse.
Ah oui, justement.
Qui est vraiment. Mais vraiment immonde. C'est le pire qui.
Ça valide plutôt l'intérêt qu'ils pourraient avoir pour Valve, justement.
Oui, ben non, mais ce qu'il leur faut, c'est des développeurs, c'est tout.
Oui, c'est ça. Ouais.
En fait, dans le monde tel qu'il est aujourd'hui, je parle du business, de la bourse, de tout ça. Pourquoi est-ce que ce serait
Alors, je sais qu'on a déjà eu le rapprochement Activision Blizzard qui nous a tous un tout petit peu sonné quand c'est arrivé, mais là, vraiment, Valve. Je veux bien mettre la main à
on va vers de plus en plus de conglomérats.
Square Enix c'était fort aussi.
Square Enix c'était énorme, c'était deux ennemis jurés.
Ouais, c'est vrai. Ouais, mais Nintendo et Sega, n'en parlons pas.
La différence de Valve c'est que c'est plus qu'un éditeur, c'est aussi une plateforme.
Justement. Mais justement.
Enfin bref. Un jour Xbox, Microsoft, ils vont acheter des codeurs, des mecs qui savent faire des vrais trucs pour qu'ils aient une belle interface pour leur Windows Store.
Mais c'est incroyable ça, t'imagines que c'est une des entreprises les plus riches du monde et ils n'arrivent pas, ils sont pas foutus de faire un truc que même des studios indépendants arrivent à faire quoi.
Ouais. Hey, mais comment c'est ils sont riches à ton avis
quoi. Ouais.
Bah voilà.
j'ai pas compris.
Bah c'est des rapiens.
Ah non, bah, je pense qu'il y a vraiment des gens qui bossent mais qui font n'importe quoi.
Ah bah là pour le Windows Store et...
Je pense que c'est une grosse boîte tellement grosse qu'ils partent un peu dans tous les sens ou alors ils ont une stratégie puis une autre qui invalide la première, etc. quoi. Je pense plutôt que
mais,
c'est...
Ouais. Même Frontier qui est un studio indé qui est Elite Dangerous, ils ont leur propre plateforme, Launcher, qui marche excessivement bien, c'est-à-dire que t'installes ton jeu, tu cliques, tu joues. Comme sur Steam.
Tous les launchers du monde marchent
bien. Tous les launchers du monde font. Ouais, mais là, c'est pour donner un exemple vraiment concret des gens indépendants.
Ouais, même ces trucs-là fonctionnent très bien, finalement. Ouais, comparé à Windows Store et Windows 10, Windows 10 Games, je sais plus comment ça s'appelle. Enfin bon, un truc.
Oui, Windows Store.
Alors, l'autre boîte, ça serait Bluehole. Et Bluehole, vous le savez, ils sont déjà rapprochés d'eux parce qu'ils ont obtenu l'exclusivité.
Console.
Entre guillemets temporaire.
Puis il vaut mieux le faire avant que Bluehole puisse les racheter eux.
Voilà, de PlayerUnknown Battlegrounds. Et eux, bah pourquoi pas les racheter directement.
Bah
à la limite, tu sais qu'ils risquent ton truc.
Ça me paraît beaucoup plus logique.
Enfin, ça c'est même. C'est
voilà, donc voilà le gros appétit de Microsoft qu'on envisage pour les mois à venir. On verra si tout ça c'était du pipeau.
Mais après, ça.
Si c'était fondé.
Toi, tu disais que c'était. Enfin, tu trouvais ça bien pour Microsoft, mais moi, je trouve que c'est comme pour Disney, je trouve que ça fait un peu peur. Que des grosses boîtes s'accaparent plein de choses et qu'à la fin, t'as un peu peur qu'il n'y ait plus de liberté en fait. Parce que si tout le monde, tout appartient à la même boîte. C'est un peu un monde central, centralisé.
Je disais pas que c'était bien pour l'humanité. Hein. Je disais que c'était bien pour eux. C'est-à-dire que c'est effectivement le seul truc qui leur manque aujourd'hui à Xbox. Et là, je parle sur le prisme du jeu vidéo qui est notre domaine à nous. Pour que Xbox fonctionne en tant que service, en tant que marque, etc., il faut qu'ils développent des.
Non, mais dans la manière dont tu disais, on disait que ça te faisait plaisir. C'est ça en fait.
Non, c'est pas que ça me fait plaisir. Non,
oh les lourds.
Si. Moi je trouverais ça assez excitant comme nouvelle quoi. Quand il y a des gros trucs énormes comme ça, je trouve ça toujours intéressant à observer, à traiter, etc. Passons à la suite. On va rester dans les trucs un petit peu business. Et
ouais,
Thomas,
puis on va arrêter de parler de libéralisme comme ça.
Voilà.
Ça
bah tu vas voir. Tu vas voir. Alors il paraît que ça va bien pour Nintendo.
Ah ouais, il paraît parce que l'entreprise a dévoilé pas mal de chiffres, que ce soit pour la fin de l'année calendaire 2017 ou de l'année fiscale qui arrive bientôt. On savait déjà que la Switch avait réalisé la meilleure première année aux États-Unis pour les ventes d'une console. Là, on a eu les chiffres de vente donc arrêtés au 31 décembre 2017. On a plus de 9 millions de Super Mario Odyssey qui ont trouvé preneur.
C'est énorme.
7,3 millions de Mario Kart 8 Deluxe.
Pas 9 millions de Mario.
9 millions de Mario
Alors,
Odyssey.
Alors il y a, je spoil, 6 millions de Zelda, c'est ça?
Ah ben Zelda, il est pas dedans parce que ils n'ont pas recommuniqué dessus en fait.
Ouais,
ils...
mais c'est 6 millions 9, je crois.
Non, mais c'est quasiment une console sur deux qu'a Mario Odyssey.
C'est même un peu plus. C'est un excellent ratio.
Mais j'ai vu qu'il y a quand même des pays qui sont réfractaires. Par exemple, j'ai vu les résultats des ventes d'Angleterre, enfin du Royaume-Uni, et les premiers jeux Nintendo, il arrive en 8ème position, je crois.
Sur l'année?
Ouais. Ce qui est c'est étrange en fait.
Oui, parce qu'il y a une appétence en Grande-Bretagne pour les grosses licences multiplateformes dont on parlait avant.
Oui, puis aussi c'est les jeux indés aussi qui fonctionnent bien sur les
Et au niveau mondial, effectivement, ils s'en sortent très très bien.
C'est énorme.
On avait quelques 12 millions de Switch qui étaient vendus au 31 décembre 2017. Et depuis, puisque là c'est les chiffres officiels, et en parallèle on a eu une autre annonce, c'est que la Switch a déjà dépassé les ventes totales de la Wii U.
Donc
sur tout son cycle de vie en l'espace de 9 mois, on va dire 10 si on compte le mois de janvier,
voilà.
Sachant que maintenant voilà,
alors que la Wii U a eu
un cycle de vie
de 4 ans,
on va dire de 4 ans, voilà, elle plafonne selon Nintendo à 13,56 millions, donc ça c'est la Wii U, et là on serait à 14,86 millions de Switch.
C'est quoi,
donc
c'est combien,
en l'espace de moins d'un an?
Pardon, la Wii, tu sais ou pas combien c'était le résultat de la Wii?
Tout.
Ouais.
Au total, tout.
C'est énorme.
On est au-dessus de 100 millions.
Ah bah, c'est ouais. plus de 100 millions.
Et ouais. Vous pensez que la Switch arrivera un jour à
ça? C'est une vraie question que tu poses là. Je sais pas.
Bah, elle est bien partie.
C'est en tout cas.
Elle est très clairement bien partie.
S'ils arrivent à entretenir l'élan là, ça risque de faire mal. Ouais. Parce que techniquement, ils ont fait mieux que même la PS4 hein, sur sa première année de lancement. Hein.
C'est peut-être Nintendo qui va racheter Electronic Arts.
Sur ses 9 premiers mois de lancement. Non, c'est impressionnant.
Donc, très très bon résultat pour cette première année qui n'est même pas terminée en fait, puisque la console fêtera son premier anniversaire uniquement le 3 mars prochain.
Et dans le même temps, Nintendo a donné des nouvelles du film de Mario et a annoncé le prochain jeu mobile, Mario Kart
Tour. Et oui.
Voilà, dont on ne sait rien pour l'instant. Mais
on connaît le logo.
Voilà.
On connaît la fenêtre de sortie.
Cette année.
L'année fiscale 2018-2019. Donc, voilà, donc
jusqu'à mars 2019.
Au plus tard, jusqu'au 31 mars 2019, sauf report évidemment. Hein.
Ils en ont profité aussi pour annoncer le service en ligne, voilà, qui coûte quand même moins cher que le Xbox Live.
Les tarifs, on les connaissait depuis quelques temps.
On les connaissait depuis certains temps, mais ouais. Là, ils ont annoncé que ça arrivait là, cette fois.
Ouais. Vers quand alors,
c'est en septembre 2018, sachant qu'on n'a pas de date précise.
Parce que ça aurait dû être septembre 2017 au départ, donc c'est pour ça.
Alors, dans mes souvenirs, ça aurait dû être janvier 2018. On aurait commencer à payer là.
Parce que normalement, c'était peu après Splatoon au départ. Mm. Donc c'était effectivement septembre.
Ouais. Donc là, on n'a toujours pas de date précise. On a une fenêtre assez serrée de lancement qui est donc septembre 2018.
Tant qu'on paye pas, tout va bien.
Alors Nintendo nous annonce en plus qu'il y aura une application mobile qui te permettra de prévenir tes amis pour lancer des sessions de jeu, ce que fait déjà un peu naturellement ton téléphone en fait, si tu regardes bien
avec
tes contacts.
Avec l'application SMS, je crois, qui
voilà,
permet
ce genre de truc ou des messageries.
D'envoyer directement des messages textuels à ses amis.
Voilà, mais là il faudra télécharger une application pour pouvoir
qui te permettra de télécharger un nouveau code ami
pour pouvoir dire voilà, viens que je te pète la tronche à Mario Kart 8, ce genre de choses. Ouais. Donc les prix Plume dit qu'on les connaissait, mais on les rappelle. Hein. Un mois à l'unité, ça sera 3,99€. 3 mois, 7,99€. Et pour une année complète, 19,99€.
Ce qui est quand même deux fois ou trois fois moins cher que ce qu'on trouve sur Xbox et PS4.
Ouais. C'est ça, trois fois moins cher.
Ah ouais. Mais il y a un truc dont on n'a pas du tout entendu parler. C'était cette promesse initiale d'avoir des jeux rétro qui tomberaient éventuellement tous les mois.
Ils n'en ont pas reparlé là ?
Aucune communication dessus. On ne sait pas ce qu'il en est.
Ah bah pour moi, ça veut dire que la console virtuelle se lance avant. Elle va être annoncée et lancée avant le
service.
Bah ouais.
Ouais, mais ça c'est moche. C'est un truc dont ils ont parlé assez tôt.
C'était
même
une promesse de départ. Bah, la conférence de janvier 2017, je crois qu'ils les mentionnent déjà à ce moment-là. Là, rien du tout. Donc on verra bien ce que ça va donner dans le futur.
Est-ce qu'ils joueraient le coup du. Bon, bah les gens auront oublié.
On sera un plaisir de leur rappeler.
Ouais.
Alors, absolument. Plus haut, puisque tu as envie de parler, on a eu les résultats financiers. T'as terminé avec Nintendo?
Oui, tout à fait.
T'as eu les résultats financiers de Sony, de PlayStation.
Ah, Sony, ça va bien aussi, hein, même si, il faut quand même le dire, il y a une baisse par rapport à l'année dernière.
Ouh.
Oh, et là, quelle baisse. Ouh, attention. Non, en fait, il s'est vendu. Non. Ils ont été distribués un poil moins de PS4 que l'année dernière sur la même période, puisque c'est 9 millions qui ont été distribués seulement en 2017, alors que c'était 9,7 millions en 2016. Mais quoi qu'il en soit, Sony, c'est quand même 76,5 millions de PS4 qui ont été distribués sur toute l'année 2017, 73,5 qui ont été vendus. Donc il n'y a pas trop d'inquiétude, encore une fois, du côté de chez PlayStation.
Elle peut définitivement devenir la console la plus vendue de tous les temps.
Absolument.
À la fin de son cycle de vie. Hein. Ça paraît une évidence parce qu'on a l'air quand même d'en être loin du fin de cycle.
Enfin, avant que la Switch, qui est sur une courbe elle aussi complètement démentielle.
Oui, la PS4 va ensuite baisser de prix, être refaite sur un nouveau modèle, etc. Toucher des marchés moins riches que.
Oui, et puis elle n'est pas prête de se terminer, a priori. Hein.
Techniquement, c'est encore 2-3 ans, je crois, avant que la
on a au moins, on a au moins 2 ans sûrs, je pense.
Initialement, c'était prévu plus ou moins pour 2018, hein, le changement de génération.
Oui, mais bon, tu peux revoir tes plans en attendant.
Bien sûr, ils l'ont revu, c'est une évidence.
Puis il y a des chiffres d'affaires, un chiffre d'affaires plutôt sympathique au troisième trimestre qui est de 85,4 milliards de yens, donc plutôt sympa. Pareil, augmentation du nombre de ventes sur le PlayStation Store, encore une fois en yens, 718 milliards de yens pour cette période. C'est juste complètement fou.
Tout va bien pour la PlayStation 4.
Et il y a quelqu'un qui a décidé de partir,
voilà,
quand tout allait bien,
comme une légende,
un peu, exactement. Il est arrivé comme un roi, comme un roi dresseur même, j'ai envie de dire.
Ouais.
Et il est reparti comme une légende. C'est Kaz Hirai, donc qu'on connaît nous
à cause de ce même, évidemment.
Case Ridge Racer.
Mais alors, voilà. Attends, pourquoi Case se casse, moi, je comprends pas.
Bah, il a redressé, voilà.
Il a redressé, il s'en va.
Il est arrivé en 2012, il a pris la suite de... Alors c'est Stringer,
Howard Stringer.
Howard Stringer.
Oui, Stringer.
Ouais, c'est ça. Il a pris la suite de Stringer en 2012. L'entreprise était pas forcément Sony dans sa globalité, hein. Pas juste la branche jeux vidéo. L'entreprise était pas forcément dans la meilleure des santé.
Il a Et même la branche jeux vidéo, tu sortais de la fin de la PS3, c'était franchement plafourissant au moment où il arrive.
C'était assez difficile. Il a pris les décisions qu'il fallait dans des branches où certains seraient peut-être entêtés. Alors il s'est séparé de toute la branche Vaio qu'il a revendue. Il a réussi à rééquilibrer de manière plutôt réussie vers la branche high-tech ou les services un peu plus premium.
Et... Ils ont liquidé les laptops, c'est fini, il n'y a plus de laptops.
Ah oui, ça fait quelques années ça.
Putain, alors je vais louper le coche là.
Enfin, tu parles de Mac à longueur de journée. Donc,
Oui, je suis sur Mac, donc
ouais, bah voilà, ça va être pour ça.
On le saura.
Et Kazirai, donc 1er avril, va laisser sa place à son directeur financier, Kenichiro Yoshida. Et donc lui, il va pouvoir partir comme ça avec... avec une espèce de CV tout beau, tout rose, avec une belle couronne aussi, en disant moi, les mecs, je suis arrivé en 2012, c'était les ruines, je suis reparti, regardez, c'est un château.
C'est un château.
Voilà, exactement.
Bon, et pour terminer, avant de conclure, Camille, on voulait profiter de ta présence pour que tu nous parles un petit peu de Kingdom Come.
Bah, belle transition de plume, parle de château.
Voilà, ouais. Exactement. Alors maintenant, on va envahir le château avec nos lances.
Mais Kazirai ne vivra pas la vie de bohème, hein. Je vous le dis tout de suite. Ça n'a rien à voir.
Un petit dernier pour la route ou on y va?
Non, mais le truc qui est très amusant et que tout le monde a marqué sur internet, c'est que le fake Kazirai que vous connaissez forcément
a pris sa retraite également.
Alors, avait annoncé sa retraite fin 2017, disait voilà, moi le 3 2018, ce sera terminé pour moi, et que Kazirai prenne sa retraite juste avant, c'est-à-dire le 1er avril, juste avant le 3, où le faux Kazirai va lui aussi prendre sa retraite, c'est quand même assez savoureux.
On découvrira un jour que c'était peut-être lui.
Ça se trouve, c'était vraiment lui. Et là, on se dirait putain, ce mec, c'est un vrai génie.
C'est un putain de génie. Donc Kingdom Come, c'est un jeu, j'ai envie de dire, sorti de nulle part. Il y a quelques années, disons, sorti d'un Kickstarter en tout cas.
Ouais,
Nulle part.
Ouais. Avec un studio qui avait une idée en tête, en gros, tu m'arrêtes si je me trompe, c'est de faire une véritable aventure médiévale réaliste.
Ouais, un donjon et dragon, son dragon.
Voilà. Ouais,
c'était un donjon. C'était la phrase d'accroche en fait de la campagne Kickstarter. Et du coup, ils ont beaucoup travaillé parce qu'il y a eu beaucoup de changements en fait depuis l'annonce sur Kickstarter, qui a brillamment réussi, puisqu'à la base le jeu devait être en 3 parties.
Et il devait sortir en 2016 surtout.
Il devait sortir en 2016, il devait être en 3 parties. Mmh. Finalement, ils ont réussi donc avec des budgets donc privés à avoir tout sortir en une seule partie. Et ils l'ont décalé ensuite de 1 an et demi. Pourquoi ? Tout simplement pour pouvoir faire une sortie sur les trois consoles en fait, sur PC, Xbox One et PS4, pour voilà, profiter de cette sortie multi-support, puisqu'à la base c'était un projet uniquement PC, voilà. Et mais ça reste quand même un jeu très très PC dans l'âme. Déjà tout simplement puisque c'est un jeu qui va être très porté sur le modding. On l'a appris.
Ils vont faire le.
On l'a appris. Bah, le modding va être très supporté. On l'a appris aujourd'hui. Il y a déjà un mode en préparation sur Game of Thrones. C'est d'une équipe de modders qui est quand même assez reconnue dans le milieu. Il y a plein de petites choses comme ça. Alors, moi, ça fait longtemps que je suis le projet. Hein. Je savais que ça allait me plaire. Je savais que j'avais une grosse attente en tout cas dessus.
Mais là, il y a une hype générale.
Voilà, il y a une hype générale qui est en train de se faire depuis quelques mois. Si vous suivez un peu sur Twitter ou même. Voilà, c'est assez impressionnant, et en plus ça se répertorie aussi dans les chiffres puisque le jeu depuis quelques semaines performe les tops de ventes sur Steam, ce qui est quand même un bon indicateur en général d'un succès d'un jeu.
C'est les précommandes quoi,
c'est les précommandes, pareil sur les trailers, on voit il y a beaucoup de vues, il y a beaucoup de commentaires positifs, beaucoup de pouces bleus, voilà. Enfin, c'est que ça présage vraiment de bonnes choses. Alors comme tu disais, oui, l'objectif c'est de faire un jeu, un RPG réaliste, donc sans aucune forme de magie.
Sachant qu'il il s'inscrit directement dans notre histoire. Hein. C'est pas une histoire inventée.
Exactement.
On est dans un lieu bien réel.
Ça se passe dans le royaume de Bohème, donc qui est un royaume qui fait partie du Saint-Empire germanique, donc dans les années 1400. Et donc on va
suivre le Tchécoslovaque.
Exactement. République tchèque. Et on va suivre donc les aventures d'un personnage, d'un ancien, enfin d'un fils d'un forgeron qui va devenir chevalier et qui va chercher, enfin qui
venger
va
ses parents.
Venger ses parents, voilà, tout simplement. Il y a de belles surprises ces dernières semaines, notamment la version française. On connaissait rien du tout la version française. On avait moi-même toutes les impressions que j'ai faites.
Mais on savait déjà que la version anglaise avait bénéficié d'un soin tout particulier. Oui, c'est vrai que les doublages étaient super bien.
Effectivement,
des bons acteurs et tout.
Des bons acteurs. Idem la version, les autres versions, la version allemande aussi. Mais la version française, on n'avait aucune donnée. On savait rien du tout, mais aucun indice. Et là, surprise, un trailer full français qui est sorti la semaine dernière. Et ma foi, c'est une bonne surprise puisque on retrouve des doubleurs assez reconnus, notamment l'acteur qui double Frodon dans Le Seigneur des Anneaux, qui a doublé aussi deux personnages, qui fait le personnage principal, et plein de doubleurs aussi professionnels qu'on a l'habitude d'entendre dans le monde du jeu vidéo et dans le monde du cinéma. Donc voilà, c'est une belle surprise.
Qu'est-ce qui crée autant d'attentes autour de ce jeu? C'est
déjà
parce qu'il est unique quelque part.
Alors il est unique
parce que les gens ont regardé la Gamescom 2015 et Mathieu à l'époque qui disait que c'était son jeu le plus attendu. Voilà pourquoi.
Là, mais
les gens savent.
Mais derrière, c'est vrai que depuis 2015 on le voit à chaque fois sur tous les salons.
Ouais.
Moi je l'avais vu à l'E3, on l'a revu à la Gamescom.
Avec un salon de plus en plus grand à chaque fois. Enfin, un espace de plus en plus grand.
Alors,
y a plusieurs raisons. Déjà, c'est vrai qu'esthétiquement, il est quand même assez attrayant. Ça tourne sur CryEngine. C'est un studio qui est indépendant. Alors, ils éditaient leur jeu par Deep Silver, mais en version physique. Mais sinon, ils restent indépendants.
Sur la version Steam, ils sont 100% indépendants.
De ce que j'ai compris, c'était
un deal pour la distribution surtout, quoi.
Ouais. Donc voilà, esthétiquement, c'est quand même une belle surprise. Alors comme je disais, comme ça reste indépendant, ils n'ont pas non plus un budget illimité. Donc effectivement, ils l'ont avoué eux-mêmes. Il y a quelques soucis dans les animations faciales. Ils ont pas pu malheureusement faire tout ce qu'ils voulaient, mais c'était pas possible financièrement. Mais voilà, esthétiquement, ça reste très beau. C'est du CryEngine, c'est plutôt bien optimisé, même très bien optimisé. Au fur et à mesure des trailers, alors là, ce que vous voyez à l'écran pour les premiums, c'est même pas le rendu final, il me semble. Ça va être encore amélioré pour la sortie. Puisqu'il y a eu des changements vraiment les derniers mois ont été cruciaux pour le développement de l'optimisation. Donc esthétiquement attrayant, historiquement attrayant, parce que c'est vrai que finalement un jeu 100% historique, c'est vraiment très rare. C'est même à part les Total War, finalement il n'y en a pas énormément qui prennent vraiment
l'histoire,
place
la
dans
vraie,
l'histoire,
comme
l'histoire la vraie avec un grand
alors, c'est quelque chose qui peut être passionnant en termes de fiction.
Exactement,
on pense à Rome
mais
par exemple
prouver, voilà.
ou ce genre de série qui s'inscrit qu'inscrit des personnages fictifs dans une période réelle pour en faire quelque chose de merveilleux à chaque fois.
Mais ça prouve bien qu'on peut simplement en piochant dans l'histoire trouver des choses assez fantastiques, pas besoin de partir dans la fiction.
Mais c'est même pas que l'histoire en termes de période, parce que tu m'arrêtes si je dis une bêtise, mais ils sont attachés les services d'une historienne.
Exactement.
Pour la construction des habitations, enfin ce genre de trucs, ils sont allés assez loin dans dans le respect finalement des techniques de l'époque.
En fait, c'est ça qui est assez hallucinant dès que tu t'intéresses un peu de près au jeu, c'est de voir, et moi pour avoir rencontré aussi comme toi les développeurs, c'est que les mecs c'est des putains de tarés quoi. Ils veulent vraiment, être, point par point sur chaque petit détail.
Ils sont un peu maniaques.
Ils veulent être parfaitement réalistes et historiques.
Mais les jeux de maniaques, ça peut être des chefs-d'œuvre.
Carrément. Regardez Heavenly Sword, ils ont dit tiens, on va aller consulter des médecins, des psychiatres, des psychologues pour savoir comment ça se passe dans la tête d'une personne psychotique.
Bien sûr.
Et c'est ce qui fait que hop, le jeu il est extraordinaire.
Mais là, ce qui est génial, c'est que par exemple même les combats et les armures que tu portes, etc. Je veux dire, chaque putain de truc a une importance véritablement fondamentale.
Déjà, l'atmosphère en elle-même est vraiment extrêmement soigné. Alors là, je sors un peu de la technique, mais par exemple quand on se balade dans une forêt, honnêtement c'est une des rares fois que j'ai vu ça. Enfin, t'as vraiment une ambiance, une atmosphère, t'as l'impression d'y être quoi. Tu serais en VR, tu serais en forêt quoi. C'est impressionnant. Pareil, comme disait Julo, t'as le côté hyper réaliste et pointilleux sur les combats. On a par exemple
8 axes, je crois.
T'as 8 axes de parade. Selon l'armure que tu portes, ça a une incidence sur les coups que tu vas recevoir. Si tu fermes ton casque, évidemment, ta tête sera beaucoup mieux protégée, mais du coup, tu auras une visière qui va te gâcher une partie de la vue.
Ça, ils m'avaient raconté, les développeurs, c'est trop marrant parce qu'ils nous avaient dit ça va vous faire chier le casque, hein, mais l'enlevez pas. Hein, parce que, en gros.
Tu mets un coup de taille, puis c'est
exactement.
Moment, j'ai la retirée, là.
Tu mets ton casque, ouais. T'as une vision limitée, certes, mais quand tu vas te battre, tu vois, tu peux te prendre un coup, tu vois, deux ouais. coups, trois coups, puis toi tu mets des coups. Et il disait, il y a un journaliste, il a enlevé le casque parce qu'il voulait voir un peu ce qui se passait autour de lui. Et le mec en face est arrivé, il a fait boum, et le mec est mort directement, tu vois, Bushido Blade quoi.
Bah tant mieux.
Ouais.
Mais il y a plein de choses comme ça.
Ça fait tiep au niveau animation.
Oui, ouais. Bah c'est un RPG. C'est un peu le souci avec comme dit plume, c'est un RPG. Mm. Donc quand il y a des combats, alors là c'est rien du tout. Hein, ce que vous voyez, il y a des
batailles rangées.
Il y a des escarmouches où ils sont une cinquantaine et des batailles rangées où il y aura plusieurs centaines de belligérants. Et donc du coup, il y a un côté épique, il y a un côté atmosphère et vraiment c'est très soigné, que ce soit niveau musique, que ce soit niveau enregistrement vocal, enfin voice acting, enfin tout est vraiment très recherché et c'est ce qui, je pense, fait plaisir aux gens de voir.
Ils se sont débrouillés aussi pour faire un truc pas linéaire, c'est-à-dire que à l'E3, la démo qu'ils avaient fait, c'était non mais c'est sur les embranchements scénaristiques.
Ouais.
En gros, tu faisais une enquête et tu devais trouver les responsables d'une série de meurtres. Et selon le moment où tu les trouvais, selon ce que tu leur disais quand tu les trouvais, selon ce que tu faisais quand tu les trouvais, genre est-ce que je vais chercher de l'aide ou est-ce que je m'en occupe tout seul, etc. Et bah l'histoire changeait totalement.
Mais en plus ils font ce qui était impossible de faire en 2011, ce qu'ont les développeurs de Skyrim nous ont teasé là-dessus, dire oui vous inquiétez pas, on aura des villages avec des vies, les citoyens qui auront une vraie vie, etc. Finalement bah ça a jamais été fait. Alors que là pour le coup c'est vraiment le résultat est visible, les citoyens ont une vraie vie. Donc c'est-à-dire que ils vont dormir, ils vont manger, ils vont avoir leur cycle de vie, ils vont dormir la nuit ou au contraire les brigands vont vivre le jour.
Ah merci Shenmue quand même.
C'est vraiment assez incroyable.
Ouais, il y a eu Majora's Mask aussi. Hein.
Et du coup, on aura des missions qui seront qui seront réalisables uniquement le jour, uniquement la nuit, selon ses préférences. Des personnages qui vont nous donner rendez-vous à telle heure et on va devoir attendre le temps X pour pouvoir réaliser cette mission. Enfin, il y a plein de choses comme ça qui sont vraiment très recherchées et c'est toutes ces raisons pourquoi les gens attendent ce jeu quoi. Et je pense honnêtement que ça sera une bonne surprise. Donc on devrait recevoir les codes bientôt pour faire.
On a plus besoin de l'attendre très longtemps.
Les codes
là.
Parce qu'il faut pas que tu joues tout seul. Hein. Ça serait malheureux quand même que tu joues tout seul.
Alors le jeu sort la semaine prochaine, mine de rien. Donc j'espère qu'on pourra en parler dans le prochain podcast. On verra.
Gros doute là-dessus, mais ouais.
Bon, prendras le temps qu'il faudra, Camille.
On fera un petit point Kingdom Come peut-être la semaine prochaine.
Voilà. Si c'est pas toi qui le fais, t'inquiète pas. Il y aura peut-être d'autres personnes à la date qui vont y jouer un petit peu.
Et alors sachez-le, parce qu'on arrive à la fin de ce podcast. Du coup, maintenant qu'on a fait le petit point Kingdom Come. Et avant de vous dire adieu, sachez-le, Camille revient il y a quelques jours à peine
de Prague,
des studios à Prague de Warhorse, donc les développeurs de Kingdom Come. Et vous allez pouvoir, d'ici quelques jours, il était avec Poufy et donc avec la caméra de Poufy. Et comme vous pouvez le voir en image, si vous êtes premium,
il a survécu.
Camille
a survécu
son combat.
Les épées qu'on voit sont en mousse.
Vous allez avoir une vidéo vachement sympa dans laquelle Camille vous fait faire le tour du studio Warhorse. Avec des images de motion capture, des différents postes, où on voit ces 110 personnes qui ont bossé.
T'as assisté
quand même sur
à
le
tout
jeu.
Ça ? Non, ça, c'est des trucs qu'on t'a fait.
Non, mais j'ai porté une combinaison comme ça.
C'est vrai ?
Ouais.
Donc
tout ça vous allez découvrir dans une belle vidéo
avec un guide très sympathique.
Et oui, c'est Tobias.
Et pas
Tobias,
juste parce qu'il est roux.
Tobias, c'est lui, c'est le RP en fait.
Il est très rigolo.
Qui est un peu le il y a un autre RP dans le studio. Donc il est pas que RP en fait, c'est un peu le méga le mec qui sait un peu tout sur le studio.
Ouais.
Et ça qui est intéressant, c'est que c'est finalement assez rare dans les studios, c'est que c'est quelqu'un qui peut vous répondre à toutes les questions sur tous les sujets. Il a vraiment suivi de A à Z tout le développement. Il peut vous répondre sur la musique, sur la 3D, sur tout et
sur le debug, etc.
Non, vraiment, c'est quelque chose de. Enfin, c'est un mec incroyable et vous aurez l'occasion de vous en rendre compte dans le.
Et alors, quand on voit cette vidéo, spoiler, vous le verrez quand elle sortira, mais
donc,
on a quand même l'impression que là, il débug énormément. Hein,
Parce que, mais ils l'ont dit. C'est...
Souvent, les tours de studio, ils disent au mec, vas-y, reviens, fais semblant de travailler. Là, les mecs, ils étaient vraiment en train de bosser. Là.
Mais ils étaient, en fait, ce qui était intéressant, c'est qu'ils étaient en plein rush 3 semaines avant la sortie. Et du coup, c'est vraiment le moment.
Il y a énormément de. Je pense que c'est un jeu qui va être très buggé.
Je pense. Mais ils l'ont dit qu'il y aurait un.
C'est un jeu qu'on va adorer, mais qui sera buggé.
Les gens monde ouvert.
Il y aura un patch day one. Maintenant, on est habitué un peu pour tous les jeux, que ce soit les AAA ou les jeux indépendants. Mais ouais. Donc en tout cas, ils nous ont promis de faire leur maximum pour que le jeu soit buggé le minimum possible. Donc
en tout cas, c'est bizarre, mais c'est vrai que c'est pas forcément le genre de jeu auquel le public consoleux de base, un peu comme je représente, c'est pas le genre de jeu sur lequel on est à fond. Mais moi, j'ai très envie
The Witcher 3 non plus. C'était pas censé être le type de jeu sur lequel les consoleux étaient forcément chauds.
Et Witcher 3 un peu plus que là. Là, on est vraiment dans un truc qui fleure bon le PC quand même. Dans l'âme, quoi. Vraiment.
Ouais, The Witcher, c'est né sur PC.
Oui, je sais, bien sûr. Enfin, mais voilà, c'était plus compatible, je pense, avec l'esprit consoleux, quoi. Mais...
Ouais.
Plus que ça.
Bah, plus que c'est de l'heroic fantasy, oui. Mais là, c'est juste de l'héroïque.
Voilà. Donc, je suis impatient d'y jouer, perso. Donc voilà, on restait bien sur Gameblog à l'affût. La semaine prochaine, vous verrez popper. Alors, probablement lundi, si je dis pas de bêtises. Je regarde Poufy pour être sûr. Mais
Poufy qui ne capte pas ton regard.
C'est prêt demain, Poufy, c'est que tu nous as dit.
C'est prêt entre demain et lundi prochain. Donc, une visite guidée des studios Warhorse. Surveillez cette prochaine vidéo sur Gameblog. Il ne nous reste plus qu'à vous dire gros bisous, à la semaine prochaine où je rendrai cette place à Plumeau s'il n'est pas malade.
Peut-être quelque chose.
Et voilà, un petit truc à ajouter.
Ouais, couvrez-vous et surtout lavez-vous les mains au moins 40 fois par jour. N'hésitez pas à mettre votre écharpe vraiment bien sur le nez, hein,
surtout
s'il y a des gens qui vous toussent dessus dans le métro ou ce genre de truc, surtout n'hésitez pas.
Voilà, comment on fait quand on bosse à côté de toi pour éviter tous ces miasmes,
hein. Bah moi après c'est peut-être vous qui êtes plus résistant, hein. Je sais pas comment vous faites pour pas le choper.
L'air de la campagne, baby.
Ah, ça doit être ça, ouais.
Et oui, vive Chantilly. Allez, gros bisous à tous. On se dit donc à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures gameblogiennes.
Ciao.
Salut.
Ciao.